France Inter.
C'est la bonne journée.
Bonjour.
Avec Isabelle El Moitié, Tristan Lopin.
Bonjour.
Mirabel. Et nos invités, Léa Salamé et Christophe de Chavanne. Le pauvre Daniel.
Je viendrai un autre jour.
Ah, t'es là, oui, c'est vrai. Il y a Daniel Morin aussi.
Faites comme si j'étais pas là.
Non, mais c'était super guest. Non, reste. Reste, oui.
Tiens, j'ai du calva.
Tu veux que je t'aide?
Une pastille.
Quelle époque, oui, une petite capsule. Quelle époque nous avons évoqué le succès télé de Léa Salamé et Christophe de Chavanne dans quelques instants. C'est tous les samedis soirs sur France 2 en deuxième partie de soirée.
Sauf samedi dernier, c'était l'Eurovision.
Ouais.
J'aurais tous préféré, je crois.
Qu'à l'époque. Qui chante ça?
Tristan.
Oui.
Clara Luciani.
Oui.
Ouais.
Tu as le titre ou pas?
Drôle d'époque.
Exact.
Moi, j'ai pas le temps.
Ah oui.
Pas les épaules, pas les épaules. Pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque.
Qui chante ça?
Le rap pour moi depuis le début n'est qu'une passion.
Tristan, tu
m'as dit cela? Les années passent,
non.
Vieilli, mais bon. Je me rappelle l'époque où les profs me mettaient les bâtons.
C'est vieux ça, non?
Dans les roues,
voilà.
Dans
oui.
Rue, Daniel.
Oui.
Franck Furet.
Ouais, c'est ça.
Non,
c'est
non.
En attendant, si
non.
Je suis là.
C'est Paul, c'est du rap, Paul.
Mais voilà. Je m'en bats, je suis pas.
Attends, mais je sais ce que c'est ça.
Être ouais, enseignant,
c'est savoir. C'est. Oh là là, c'est Alliance Ethnique.
Joli.
Oh là là.
Wow.
C'est vieux ça.
Cette putain simple funky, il n'y a pas que
alors,
ça.
Alors, le gros succès, c'est ouais, simple funky, ouais, absolument. Bien joué, et ça s'appelle Époque scolaire. Et là
Leïla.
Oui.
Ah. Nirvana.
Non.
Ce soir, j'ai le mal de mon époque.
Tristan.
Leïla.
Oui, Kyo.
C'est la fois que j'ai reconnu, je ne connaissais pas la chanson.
Mais là où je suis d'accord avec Leïla, c'est que l'intro est tellement nirvanesque.
Ah ouais, on est d'accord.
Ah on est d'accord, ouais. Et là,
Tristan,
oui.
Putain d'époque, c'est Juju PK.
Exactement, Luju PK, joli.
Ah bah attendez, moi j'ai une culture musicale
attends,
très très basse.
Toi t'as préparé le thème parce que t'as dit
ah non,
Juju PK.
En vrai, je l'écoute cette chanson.
Ah ouais, t'as dit quoi le nom de l'artiste?
Luju PK. Je l'ai écorché, je pense.
Ouais, t'as dit Juju PK.
Juju PK.
Ah c'est ça.
Je connais même pas.
C'est vrai? Bah écoute, c'est...
on fait des stories, pas de long discours.
J'aime pas du tout.
C'est 100 euros la demi-heure d'amour, ça n'existe pas si c'est.
Et là qui chante?
Daniel,
oui.
Axel Bauer.
Non.
Torime.
Oh!
Enigma.
Torime. Ameno, ameno, la tire.
Je sais pas qui c'est ça.
C'est quoi?
Ah non.
Si, si, c'est
connu.
Si, si, c'est très connu, mais alors, du coup. Le...
C'est l'abbé Cotard?
C'est pas les papes ou les.
Bah, oui, mais
ah, les prêtres.
Ce qui est important, c'est d'avoir le nom du groupe.
Les prêtres?
Non. Les prêtres.
Non, c'est Hera.
Hera! Vrai!
Et. Hera, c'est époque en anglais?
Ah, oula.
Ouais.
Ah, ouais, d'accord, ok.
C'est là, madame, madame! Madame.
Elle
est pas. Ah oui, pardon.
Attention, qui chante ça?
Chanson à texte?
Chanson française.
C'est français, monsieur.
C'est français.
Tristan?
Leïla?
Oui. Raphaël?
Non.
Leïla Vincent Delerme?
Non, c'est un groupe.
Les Schmitt?
Non. Il y a époque dans le titre, forcément.
Époque formidable.
Changer d'époque, c'est le titre.
Leïla.
Oui.
Louise Attaque.
Non, mais.
Tristan Roussel.
Tristan Roussel.
J'ai du mal
à voir l'état. Lady Sœur.
C'est un groupe dans le genre Louise Attaque, mais c'est pas Louise Attaque.
Un groupe français.
Ouais.
Ah. Les Innocents.
C'est... Non, alors c'est. Daniel, tu pourrais trouver, c'est le nom d'un apéro.
C'est vrai.
Suze.
Les Ricards. Ça, c'est un ordre, Leïla.
Ok, c'est Blancas.
Ah oui, Blancas.
Ah non, moi je l'ai pas.
Ouais.
Je l'ai jamais eu même.
Ok,
c'est Berry.
Alors attention, ça va être très facile. Le dernier titre est très 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 facile. Donc je veux absolument que vous me donniez votre prénom. Ensuite, je vous donnerai la parole.
Et
ensuite,
ah là là.
La réponse. Je ne veux pas que vous donniez la réponse avant que je vous dise
c'est
oui.
C'est français ou pas, monsieur?
C'est maintenant.
Paul.
Paul.
Orelsan.
Oui.
Ouais. Bravo.
Ouais. Ouais.
mes aïeux, quelle époque, mes aïeux. Victoire de Paul Mirabel. Et voici Léa Salamé, que ça me charge.
La bande originale avec Nagui et Leïla Kadour.
Et oui, quand on s'équipe, parce que
quelle époque, mes aïeux, quelle époque, mes aïeux.
Ça me parle, mais je vois pas.
La personne à ma droite ne connaît pas le générique de l'émission.
Bienvenue Léa Salamé, bienvenue Christophe de Chavannes.
Et merci Nagui,
merci
bonjour tout le monde.
Merci de nous inviter, bonjour à
vous
tous.
Accueillir. Et on va commencer par un énorme bravo pour cette saison de Quelle Époque, qui est un succès, pour pas dire le succès de cette rentrée. Déjà, félicitations pour ça. Merci de trouver le temps de venir au milieu de tous ces ponts et...
Attends, ça va, c'est une fois par semaine, ils peuvent venir.
Non, parce qu'ils avaient toutes les raisons, finalement, avec l'Eurovision, d'avoir un peu de off et un peu de tranquillité.
C'est vrai qu'on a eu un peu de off la semaine dernière.
Pour en parler, on va... Oh là là, ça aurait été tellement mieux avec vous, franchement, je sais pas ce que vous avez fait. Bon, bref, c'est pas grave.
En chantant, je sais pas.
Voici Tristan Lopin qui va nous expliquer pourquoi. Tristan, avez-vous compris pourquoi Léa Salamé et Christophe de Chavannes étaient là?
Avant toute chose, je voulais vous dire que je suis trop content de tous vous retrouver enfin près d'un mois sans vous voir. Je suis complètement jetlagué. La semaine dernière, j'ai joué à Madrid et Barcelone dans le cadre de mon España Sangria World Tour.
Comment il se la raconte?
Je reviens et là, on m'apprend qu'on vous reçoit, Léa Salamé, Christophe de Chavannes. Et ça, ça me fait plaisir parce que pour une fois, je n'ai pas eu à googler le nom des invités ou à faire semblant de m'intéresser à elle ou lui en leur posant des questions genre « ça vous fait quoi d'avoir moins de rôle que Virginie et Fira ?» ou « ça vous fait quoi de mal écrire mais de vendre beaucoup de bouquins ?» Boring. Là, je peux être tout à fait honnête car j'ai compris, je vous connais tous les deux et je connais même votre émission qu'à l'époque dont vous êtes venu nous parler. Bon, Léa, j'imagine que le trajet n'a pas été trop long entre le studio de la matinale et celui de la bande originale. J'adore l'idée, vous faites carrément la promo de votre émission télé sur la radio pour laquelle vous bossez. C'est quasiment méta comme concept, rien à voir avec vous, mais en version trash. C'est un peu comme Jean-Marc Morandini qui, il y a quelques jours, a invité sur son plateau un garçon de 13 ans pour parler des violences sexuelles qu'il a subies alors que lui-même a été reconnu de corruption de mineurs.
C'est
vraiment Inception, le bordel, quoi. Léa, franchement, je vous admire, vous êtes une femme née à l'étranger et vous faites des interviews radio, vous présentez une émission télé. Du coup, j'ai...
Ah, c'est vrai. Si t'étais là, ça
la suite arrive.
Moi.
Du coup, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, ça vous fait quoi de recevoir des gens comme Bec Bédé ou Zemmour? À chaque fois que je vous vois face à eux, incisives, puissantes, justement, comme les femmes, auxquelles vous consacrez des entretiens, je me dis, vous devez tellement prendre de plaisir à recevoir des mecs qui n'arrivent plus à vivre avec leur temps quand vous, justement, vous n'avez pas le temps d'attendre qu'ils se déconstruisent. Le pire, c'est que votre émission marche tellement bien qu'ils attendent que ça d'y être invités. Franchement, il y a des soirs, j'aimerais recueillir les larmes de seum qui doivent couler intérieurement sur leurs joues quand vous les interviewez. Je suis sûr que, comme une gousse d'ail, ça peut servir de protection mais contre autre chose que des vampires, contre des types qui prononceraient des mots comme « de toute façon, on peut plus rien dire » ou « les Birkenstocks, si on nous a sorti bien, bon, pourquoi pas ?» Ça n'a rien à voir, mais vraiment, faut faire quelque chose pour eux aussi, sérieusement. C'est réjouissant de vous avoir tous les deux, mettre en lumière des gens talentueux qui n'agressent personne. Ça change de la montée des marches à Canière. En plus, je regarde souvent Quelle Époque dans ma chambre d'hôtel en rentrant d'une date de spectacle, c'est vrai. Les gens pensent que la tournée, c'est de l'alcool, les saladiers de cocaïne et coucher avec les fans. Alors pour l'alcool, oui. D'ailleurs, merci Leïla pour le code promo chez Allo Apéro, ça fait plaisir. Mais alors, pour le reste, rien du tout. La cocaïne avec mes allergies au pollen et mon nez bouché la moitié de l'année, ce serait du gâchis. Hein. D'ailleurs, Alexandre Cominec ne m'adresse même plus la parole. Et pour ce qui est de s'envoyer en l'air avec mon public, il est composé à 80% de filles, donc franchement, flemme d'inviter une nana dans ma chambre d'hôtel pour finir par se brosser les cheveux mutuellement, franchement. Sérieusement, les retours à l'hôtel après un spectacle, c'est l'angoisse. Hélène Rollès chantait « Personne ne m'attend le soir quand je rentre tard ». Personne ne fait pas trop mon cœur lorsque s'éteignent les projecteurs. Eh bien, sachez que quand je quitte un théâtre et que je rentre me coucher à l'hôtel de la gare de Nantes, Morges ou Montévrain, ville dans lesquelles il s'avère que je jouerai mon spectacle au mois de juin, quel hasard, j'allumerai la télévision et c'est vous, Léa, Christophe, qui ferez battre mon cœur. Je vous assure, je prends tellement de plaisir à regarder que parfois, quand l'émission s'arrête, j'allume une cigarette comme pour me persuader que moi aussi, je fais un peu l'amour. Alors désolé, Leïla, Nagui, je fais un peu de lèche. C'est pas contre vous, mais moi, on m'a rien dit pour l'année prochaine. Et Philippe Cavrivière et Paul de Saint-Sernin sont pas éternels.
Non,
merde. Merci, Tristan. Mais eux, ils bafouillent pas.
Le corbeau.
Ça leur arrive. Tu me promets un truc, tu chantes plus jamais.
Non, je sais.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
J'avais hésité, je me suis dit.
Non, n'hésite pas. N'hésite plus.
Je pense qu'ils devraient même s'excuser.
Non.
T'étais au bout du rouleau.
N'hésite plus.
Parce que j'hésitais, c'était pas fou.
Mais rythmiquement même, il se passait rien.
Mais je suis pas chanteur.
Si. Moi, je sens qu'il y a un truc.
Salaud.
Du coup, j'annonce les dates ou pas?
Bah oui, si je chante pas.
Si je chante pas, hein. 1er juin à Nantes, le 14 juin à Morges et le 17 à Montévra.
Quelle époque? Comment est né ce succès? Comment est née cette émission? Parce que un talk le samedi soir, on se dit, il y en a tellement eu, ils ont déjà été tellement avec des hauts, avec des bas, avec vous d'ailleurs, en binôme, en trinôme.
Elle l'est.
Oui,
mais vous aussi, Christophe. Si, avant Ardisson, il y a 25 ans, t'avais fait un an.
C'est vrai. Ah oui. Exact. Oui, ça s'appelait du fer dans les... Pas du tout.
Non, du fer dans les épinards.
Non, du fer dans les épinards, si.
Exactement.
Mais j'étais pas en binôme.
Ça va?
Comment?
Qui êtes-vous?
Qui êtes-vous?
Où suis-je?
Non, mais donc cette case, vous la connaissez
on
bien.
On enregistre à quelle heure?
Comment après l'émission. On fait les re-re après l'émission. Comment s'est passée d'abord la naissance de cette émission, Léa Salamé? Vous avez été le cœur de cette construction, de cette fabrication, et puis vous avez proposé à Christophe de vous rejoindre?
Oui, à peu près. Ouais. Ça, c'est né, vous le savez maintenant, on ne va pas y revenir, mais c'est né par la décision de Laurent Ruquier à l'origine d'arrêter. On avait tenté une coprésentation, il n'était pas très heureux, il a décidé d'arrêter.
Et c'était... Vous non plus, vous n'étiez pas très heureux?
Moi, j'aurais pu continuer.
C'est vrai?
Moi, je l'ai dit, j'étais pas...
D'accord.
Mais je pense que lui, qui était sur cette case depuis 17 ans, seul, enfin avec des chroniqueurs, mais pas en coprésentation, il a fait 17 ans, je pense que ça... Il n'a pas aimé la coprésentation, il l'a dit de manière assez naturelle, donc voilà. Non, moi, je n'ai pas de problème avec ça et j'apprenais avec Laurent, donc j'aurais très bien pu faire encore sans problème, mais il se trouve qu'il prend cette décision-là. De là, la chaîne me propose d'y aller. J'ai hésité, parce que vous le savez, Nagui, je n'étais pas sûre d'être animatrice, en fait. Je savais que je faisais à peu près mon taf de journaliste, mais c'est un autre métier, animatrice, c'est-à-dire qu'il faut se lâcher, il faut donner.
On peut le dire sans dire ce qu'on s'est dit, mais on en a beaucoup parlé il y a des années.
On en a beaucoup parlé il y a des années, parce que je vous avais demandé votre avis et je vous avais demandé conseil. On n'est pas que les gens ne pensent pas que c'est l'entre-soi, parce qu'on se voit jamais, on déjeune pas et tout ça, mais c'est vrai que parfois, deux ou trois fois, je suis venue vous voir dans votre bureau dentaire, en vous demandant des conseils au début de ma carrière. Vous m'avez toujours répondu les choses assez franchement. Et donc, ma question était de savoir est-ce que j'étais capable d'être animatrice. À partir de là, on a réfléchi avec mon producteur et on s'est mis des listes de gens, de noms comme ça, qui pourraient être un peu le sparring avec moi.
Pourquoi un sparring?
Pourquoi un sparring? Ça, c'est la question qu'on m'a posée. Moi, je le souhaitais. Voilà.
D'accord.
Je vais vous dire simplement. Okay. Alors, on peut dire oui, parce qu'elle avait peur. Mais sans doute, j'avais peur.
Non, mais vous
donc, j'ai dit oui, j'avais peur d'être seule.
Dans Philippe Cavrivière ou dans Paul de Saint-Sernin, qui sont extrêmement brillants, vous auriez pu trouver des sparring partners ou des punchliners des snipers un peu
mais
à la Baffie.
Ce que je ne suis pas.
Ce qui n'est pas du tout. Je vous cache pas que j'avais peur, en fait. J'avais vraiment tout simplement peur l'été dernier. Je veux dire, je sortais de l'émission politique que j'avais portée, etc.
L'enjeu est fort.
Et l'enjeu était immense. Et honnêtement, j'étais pas sûre d'être capable. Donc, on a fait une liste de noms et tout de suite, le premier nom qui nous est, je sais pas, qui brillait sur l'idée, sur quand on se l'est dit, c'est De Chavannes.
Ouais.
Et après, il fallait que ça matche.
Pourquoi ça brillait sur le papier?
Parce que c'est un mec génial. C'est un mec avec moi que je regardais, que je ne connaissais absolument
pas. Vous le saviez qu'il était génial?
Non, oui, je savais que c'était un animateur phénoménal. Alors après, la question que c'est...
Mais si
tu prends l'animateur phénoménal, il va t'écraser. Ce que tout le monde a dit aussi au début, il va t'écraser.
C'est ce qu'il a dit aussi, hein?
Non.
Si, il a dit...
Pardon. Excusez-moi, faut que je me réveille.
Non, là, je vais lui donner la parole, parce que c'est lui qu'on a envie d'entendre.
Non,
c'est toi qu'on a envie d'entendre.
Volontairement, j'ai
il n'y a pas de souci.
J'ai voulu d'abord vous
j'ai amené un bouquin.
La suite, c'est de dire il n'est pas sparring partner, il n'est pas chroniqueur.
Non, il est invité par
Manon. Non,
c'est vous qui êtes un chroniqueur.
Voilà. c'est l'invité permanent. Ça, c'est vous qui avez eu cette idée, Christophe, de dire moi, je suis bon quand je suis invité, donc j'ai envie d'être invité.
C'est pas faux. Voilà. Non, mais c'est vrai, je me voyais pas chroniqueur parce que, parce que j'étais au bout de la table à sa place pendant 30 piges. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Je ne suis pas un vous avez dit là,
un sniper,
parce qu'il faut être un peu méchant, ce que je ne suis pas. Donc j'essayais de trouver la bonne idée. La bonne idée, il m'a semblé que c'était celle-là. C'est que je sois invité permanent. Comme ça, j'étais, Bon, j'ai jamais bossé autant, hein, mais j'étais un peu plus décontracté, j'avais pas de pression, pas de machin, sauf que je travaille beaucoup, parce que...
En vrai, t'en as de la pression.
Régis Lamana, qui est le producteur, qui est formidable, qui est un très bon producteur, et vous moi, on sait ce que c'est.
Ouais, c'est ça, l'importance du producteur.
Voilà, on sait ce que c'est qu'un producteur.
C'est capital, hein, dans l'histoire.
Il m'a dit non, viens quasiment les mains dans les poches, ta spontanéité, ton machin, un peu comme ton profil Twitter, nanana. Enfin, on se disait vous à l'époque. Et j'ai dit oui, mais quand même, parce que pour être bon en impro, faut quand même avoir un peu de biscuit, voilà. Donc
pour être bon en impro sur un bouquin, il faut avoir lu le livre.
Voilà. Ouais. Et donc j'utilise à peu près 10% de mon travail nocturne que je fais.
Il travaille trop, et il peut pas vous aider.
Mais ça vous apporte un confort, ça vous apporte un naturel, ça vous apporte même dans les silences et dans les regards que vous adressez, ou les mimiques, ou les mous, au moment où quelqu'un dit quelque chose, ça vous apporte justement ce crédit du mec qui sait, qui n'est pas forcément dévoreur de micro et bouffeur d'antenne, et d'un regard et d'un plan de coupe, parce que la réalisation aussi est tout aussi importante que la production.
Ah, la fois dernière, notre ami a dû s'endormir sur 2-3 plans de coupe, parce que je regarde pas souvent, et là j'ai regardé, je me merde. Mais non, je déconne. On coupera.
C'est pas toujours les mêmes. De temps en temps, c'est Tristan.
Oui, il y a trois réalisateurs qui te tairent. Bruno et Pascal.
C'est Nico, il y a Pascal Rétif aussi.
Ouais, enfin,
ça tourne.
Et Bruno.
Mais c'est vrai que c'est important de voir votre réaction et de savoir que vous avez bossé les dossiers parce que aujourd'hui.
Ça se voit.
Parce que ça se voit pas. Non, mais non, aujourd'hui, on n'autoriserait plus, je crois, en tant que spectateur, de voir un invité aborder un sujet et d'y aller tranquille sans vous voir réagir. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Tout de suite, vous faites bombarder en ligne, nécessairement. Donc c'est important que. On ait l'impression, en tout cas, d'avoir, et c'est pas que l'impression, d'avoir face à nous des gens qui savent qu'on peut pas leur faire complètement à l'envers. Et moi, ça, je trouve ça hyper rassurant. Et ça, on le voit dans les plans de coupe, dans vos regards, dans vos réactions.
Et puis ça change ce que vous donnent les invités aussi, parce qu'ils savent que vous savez. Ouais. Donc, ils savent que vous avez lu. Ils peuvent pas vous balader, ils peuvent pas vous dire non, mais vous avez pas bien fait gaffe à mon livre.
Moi, j'ai eu droit à ça avec Mélenchon. Et j'avais pas l'image, et j'en étais malade. Il me dit non, ça n'est pas vrai ce que vous dites. Mais moi, je l'ai vu, cette putain d'image où il appelait les gens à la Révolution, et il m'a démenti. Et j'avais pas l'image, donc j'ai fermé ma gueule.
Non, mais ça, c'était marrant. C'était la toute première émission et effectivement, et j'ai dit à Christophe, parce qu'il m'a donné beaucoup, il m'a donné 1000 conseils, je lui en ai donné un seul, je lui ai dit, les hommes politiques, tu peux pas venir sans avoir la source.
Ça, en fait, tu peux pas. Deuxième.
Non, je t'ai dit après Mélenchon. Et j'ai dit, tu peux pas venir en lui disant, vous avez dit que, et sans dire, parce que tout de suite, il va te reprendre l'homme politique, j'ai pas dit ça. Évidemment. Et là, il faut lui sortir, si, c'était le 12 mai 1982, etc. Et ça, tu dois l'avoir.
Vous savez qu'il ment. Vous savez qu'il ment.
Ah, mais incroyable.
Ah oui, bien sûr qu'il ment. Ou alors, ils changent d'avis, ou alors, ils évoluent, mais ils oublient qu'ils ont. Et c'est notre rôle, c'est de leur dire, mais attendez, vous étiez pour la retraite à 60 ans, Marine Le Pen, et maintenant, vous êtes pour la retraite à 62 ans. Il y a une petite évolution, vous le concédez.
Alors, parlons maintenant du fond de cette émission. C'est-à-dire que la manière dont vous construisez l'émission, sûrement avec votre producteur, est-ce que vous faites des conférences de rédaction? Est-ce que vous décidez ensemble des invités? Est-ce qu'il y a un moment où vous devez être tous d'accord avec qui recevoir? Est-ce qu'il y a un équilibre à respecter entre...
Il y a un sujet là.
Entre l'invité, entre l'invité politique, l'invité people, l'invité de Christophe de Chavannes aussi. Comment ça se passe?
Alors dites le sujet.
Léa, je vous en prie.
Pourquoi vous êtes regardés comme ça tous les deux à l'instant?
Parce qu'il aimerait être plus associé au casting.
Oui, ou pas, parce que sinon je serais pas toujours
d'accord. Ou
tout ou rien. Parfois
il est pas d'accord. En fait, c'est surtout Régis et moi et notre équipe de programmation qui travaillons tous les lundis. On crash test les idées, etc. Okay. Et vous avez compris que je pense que le succès de... Non, mais il va faire la gueule. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on dit les choses. Mais
il a pas l'air de trouver ça génial.
Franchement, je trouverais pas ça génial. Je m'embêterais pas.
Il s'amuse, mais franchement, on s'entend tellement bien qu'on peut s'autoriser à dire les choses.
Non, mais parfois.
Et ensuite, il reçoit. Et j'ai De Chavannes qui m'appelle le matin en disant : qu'est-ce que c'est cette invitation de lui, là ? Et là,
Et elle me répond quelquefois : c'est Régis qui me. Voilà.
Et quel genre de profil ?
Il y a Margot, c'est ça. Il y a Margot aussi.
Il y a Margot, il y a les deux Thibauts qui programment.
Non, il y a une équipe. Alors, pour le coup, il y a une équipe de feu.
Christophe De Chavannes, les profils avec lesquels vous n'êtes pas complètement d'accord, c'est quoi ? Puisqu'on se dit les choses.
Dites.
Je suis pas tout à fait à l'aise avec Parce que finalement, je me démerde pour être à l'aise.
Non, finalement, ça va, Nagui.
Vous comme moi, il y a des gens qu'on aime ou qu'on aime moins.
Oui,
ben
oui, parce que vous avez une grande carrière.
Moi, je ne t'invite pas.
Et nous, on le force parfois.
Oui, mais comme c'est pas moi qui fais la liste.
Je sais.
C'est pas moi qui fais le plan de table.
Mais donc vous pouvez le dire, d'autant plus.
Non, il faut que. On va pas faire du bashing ou du name bashing.
C'est pas du bashing, mais c'est. Ou à des profils.
Il y a des gens que j'aime plus ou moins. Et je me démerde pour faire avec.
Et, voilà. Ça, et ça se passe bien d'ailleurs. Parfois, t'as des préjugés sur des gens avec qui t'as eu des fights il y a 15 ans, et ça se passe super bien, et vous sortez meilleur ami.
Ah oui, c'est des
fights. Et je ne donnerai pas de nom.
C'est des
meilleur
fights.
Ami.
Non, mais ça veut dire que c'est.
Meilleur ami.
Vous vous tapez sur la. Mais je vois le.
Non,
le truc. Je vois la scène.
Oui, me tape, peut-être.
Mais c'est un vrai couple, une vraie relation. Je te regarde.
Léa, Christophe, ce sont des fights qui relèvent du truc.
C'est pas des fights, c'est pas des fights.
C'est pas des fights. Il a une carrière, Christophe. Il a régné sur la.
On a le droit d'aimer moins certaines personnes que d'autres.
Moi, je parlais de profil. Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est des profils.
Non, c'est, ah,
c'est pas des profils.
Voilà,
c'est des profils. C'est vraiment des personnes.
Bah, le problème, c'est que ça fait, okay. J'ai à peu près un peu plus de carrière que. T'as commencé à quelle année, Nagui ?
J'ai commencé après t'avoir regardé à la télé en me disant j'aimerais bien faire ce qu'il fait.
Voilà, donc j'ai un peu plus de carrière que lui. Donc j'ai connu à peu près tous les gens, en tout cas les plus de 35 ans, je les ai à peu près tous connus.
Et tous arrivent sur le plateau en disant j'ai commencé grâce à Christophe de Chavannes.
Oh.
Tous.
Enfin,
tous.
Ceux qui font de la télé, oui. Bon,
oui, de la télé, oui. Pas Jean-Luc Mélenchon.
Non, non, ni François Hollande.
Ni Éric Zemmour.
Zemmour, qui était délicieux, franchement.
Et voilà.
Non, le plus délicieux, c'était Bardella. Enfin bon, alors, sinon, qui en a encore?
Autrement dit, pour être clair, c'est.
Non, Bardella, par exemple, il commence l'émission en disant oui, de toute façon, vous n'avez jamais interviewé personne du Front National. Bah, de force, puisque je n'ai jamais voulu.
Voilà.
Alors, vous étiez très connu avec la roue de la fortune, avec la ferme célébrité, tu vois, le mec,
il te ramène au jeu, qui est le pire des genres. À la
non,
télé.
Qui n'est pas le pire des genres, mais qui n'est pas ce que j'ai fait de plus marquant.
Excitant. De plus marquant, voilà. Plus dans l'esprit
de
des
plus
gens.
Marquant, plutôt.
Puisque les gens ont plutôt retenu Ciel, mon mardi ou Coucou, c'est nous.
Il est plus de 35 ans, oui.
Ouais, même il y a eu beaucoup de best-of et des rodiches.
Oui, mais quand même.
Mais c'est savoureux de voir qu'il va essayer de vous agacer, finalement.
Ça prouve que vous le touchez.
Voilà. Oui, non, oui. Enfin, peu importe si je le touche ou pas.
Hein. Voilà. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il se passe avec les politiques et Christophe de Chavannes des moments qu'on n'attend pas d'un journaliste
et
politique. Et c'est ça que j'adore.
Moi aussi, c'est ça que j'adore. Parce qu'il y a vos qualités d'intervieweuse et d'intervieweur, hein, tous les deux, qui sont totalement différents et extrêmement complémentaires, avec quelque chose de très étayé, de très construit, et où on sait quelle est la réponse que vous voulez obtenir, même si elle n'est plus dans la question. Et puis, on sait aussi la réaction épidermique que peut avoir Christophe de Chavannes, où encore une fois, j'avais le sentiment de connaître et d'avoir vu toutes les émissions que vous aviez faites et tout ce que vous pensiez, mais je redécouvre encore une autre sous-couche.
Ah,
peut-être qu'il n'y avait pas la place, d'ailleurs, dans certaines émissions de le dire, parce que vous aviez une réserve.
C'est pas la place, une question de position bête et idiote. Et,
non, de réserve.
Et vous, de réserve en se disant, après tout, je ne suis pas là.
Pour dire ce que je pense.
C'était même pas conscient, d'ailleurs. C'était... Ouais, j'ai jamais été totalement gâté et adoré, ni reçu un courrier magnifique des gens de l'extrême droite. Pendant 25 ans, ça n'a pas été le cas.
Plutôt
mais
bien.
Là, du fait que je dise un jour François Hollande, le quinquennat de François Hollande n'a pas été aussi tout pourri, puisqu'il y a quand même ça, ça et ça, en donnant des faits qui ont été des réussites, tout d'un coup, je suis devenu la hantise
la gauchiasse
de la fachosphère. Je suis islamo-gauchiste.
Évidemment.
Je suis,
c'est un peu quand même.
Hein. Bienvenue. Sur une terre.
Non, non, mais, c'est ça. Et, ah bah écoutez, enfin bon. c'est ça.
Il y a une annonce à faire pour l'entrée 2023 sur Inter, Christophe de Chavannes.
J'ai même zéro annonce à faire pour 2023 nulle part, moi.
Je sais pas s'il y a d'annonce, mais alors moi je prends le risque de dire que s'il y a bien un mec qui est bon
en
radio, je prends zéro risque. Christophe de Chavannes, moi je suis client, même si lui me l'a reproché de l'avoir dit, je suis client de l'homme en radio et de l'homme en télévision.
Bah, voilà. Pourquoi je t'ai reproché?
Et pourquoi vous l'avez reproché?
Elle a oublié ça, ok, d'accord. En 90...
Par contre, lui, il n'oublie rien.
En 90...
moi, quand on me le rappelle, ça...
Son cahier noir. Le 12 mai 99, vous avez déclaré.
En 99, j'avais la la chance ou l'opportunité, plus opportunité que la chance, parce qu'après ça s'est retourné contre moi, de présenter Nulle part ailleurs. Et je fais le fameux, la quatrième, le portrait de Libé. Et là-dedans, la question est pourquoi vous et pourquoi pas un autre ? J'ai dit oui, c'est vrai, ça aurait été bien que ce soit quelqu'un comme Christophe de Chavannes. Et je ne trouve pas normal qu'il n'ait rien à la rentrée 99, qu'il ne soit pas à l'antenne, tellement il est génial. Et là-dessus, Christophe n'était peut-être pas en forme à ce moment-là. Tu m'as laissé un message en disant j'ai pas besoin de ta pitié, j'ai pas besoin de ta sollicitude.
Ça n'est pas vrai.
Je te jure que c'est vrai.
Ça n'est pas vrai.
Moi, je crois Nagui.
Mais bah, toi, t'es vraiment. Alors,
tu m'avais envoyé bouler.
Je vous jure que ça n'est pas vrai. Parce que franchement, qu'un collègue déjà dise. Ça sera un mec comme lui qui si surtout si je vais pas bien, c'est quand même un truc
sympathique. Et je pense qu'au contraire, à ce moment-là, comme ça n'allait pas bien, le fait de dire.
Ça, okay, non, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie.
On s'est
d'abord, tu n'as jamais dit du bien de moi. Donc le problème
Christophe,
est.
Christophe, demande à lui s'il a le papier, s'il peut vous le montrer.
Oui, bah oui, vous l'avez ce quatrième de couverture.
Évidemment.
Eh ben, je vais le voir avec joie.
Évidemment.
Et si jamais j'ai dit ça, alors vraiment, je suis vraiment un gros con, je suis désolé.
Non, je pense que vous étiez fragile. Je pense que vous étiez fragile à ce moment-là et qu'en effet, vous n'avez pas besoin de. Mais la phrase était j'ai pas besoin ta pitié.
Mais ça n'est. C'est... Ça, pour le coup, c'est une phrase.
Il est orgueilleux. Il est orgueilleux, le garçon.
Ça, pour le coup, c'est pas pour vous, mais c'est une phrase que je dis en déconnant, moi. Genre, quelqu'un.
Non, c'était pas pour déconner, ça.
Ouais.
Assume.
On a une heure pour trouver.
Foutez-moi la peine.
On a une heure pour retrouver cet article.
Oui, on va le retrouver. Ah, ben, il y a un truc de fake.
De fake news. De vérification.
Voilà, de fact-checking. On va regarder ça tout de suite.
On a la chance d'être avec Paul Mirabel, Christophe. Vous savez que c'est une de mes idoles, lui. Il est hyper drôle.
Vous pouvez me dire ça à moi, parce que j'ai été un des premiers gars de ce métier à tomber en arrêt. Sur son premier sketch qu'on a revu deux trois fois et qui est une merveille quand il se fait piquer enfin le premier sketch où,
quand il va appeler son frère
dans la
oui
rue,
c'est ça quand il amène son grand frère après etc qui est taillé comme un frigo enfin tout le bordel et je me dis voilà un type que je veux prendre absolument il est trop marrant
et c'est Nagui qui l'a pris
mais non
j'ai pas besoin de votre pitié
non je voulais le produire je voulais le prendre comme producteur
comme producteur.
Il était évidemment chez Dumontet. Voilà, donc.
C'est un autre.
Non, c'était chez Dumontet, au début, tout début.
Non.
Jamais
Non.
Le tout début.
Non.
Non, mais il n'a jamais été produit par Dumontet. Mais c'est pas grave, Christophe.
Mais non, mais
Christophe,
c'est
Christophe. On s'est déjà croisé.
Est-ce que vous avez une preuve ?
Quelles sont vos sources ?
Voilà.
Sont vos
sources ?
C'est d'un quatrième de couverture à la con.
Mais t'es chez Dodo la Saumure.
C'est Paul Mirabel !
Allez, Paul !
Bonjour les amis, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui ?
Mais tellement, et toi ?
Oui, moi aussi ça va, bonjour Léa, bonjour Christophe. Alors moi,
bonjour,
juste, je me permets de me présenter, je fais la version sans gluten de Paul de Saint-Sernin. lui, c'est le sniper de votre émission, moi je suis un peu le pistolet à eau de la bande originale.
Non.
Alors aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de l'émission Quelle époque ? Je vous avoue que c'est une phrase que je me répète régulièrement quand je sors de chez moi en ce moment, Quelle époque ? Récemment, je marche dans la rue, véridique, il y a une dame qui me dit « Ah Paul Mirabel, j'adore les chroniques que tu fais sur Europe 1 ». sauf que moi, en ce moment, j'ai pas trop confiance en moi, donc pendant une seconde, j'ai eu un doute. Puis après, je cherche dans mes souvenirs et je me rappelle que toutes les semaines, il y a effectivement un petit monsieur égyptien assis en face de moi, dont certes, je ne connais pas le nom de famille, mais qui porte des chaussures pointues, et qui dit « Vous êtes bien sur France Inter ?» et il est midi. Alors qu'il est très souvent midi et 4 minutes, d'ailleurs. Donc moi, sur le coup, je fais semblant d'être flatté par l'idée que cette dame m'est confondue avec un Romanov, même si au fond de moi, j'ai envie de lui rouler dessus avec une trottinette électrique, ce qui n'est pas du tout de la violence, hein, c'est juste que j'en profite, puisqu'après, en septembre, on pourra plus. Puis avant même que j'ai le temps de dire quoi que ce soit, elle m'attrape très fort le bras et elle me dit donc, est-ce qu'en ce moment vous ressentez une forme d'éco-anxiété, jeune homme ? Donc moi je me dis, certes, je sors pas souvent de chez moi, mais ils ont quand même un peu changé les sondages Ipsos, puisqu'avant, sauf erreur de ma part, on faisait pas de garrot au bras de gens qu'on ne connaissait pas. Surtout que plus la conversation avance, plus je me rends compte qu'elle commence à me stresser encore plus que l'écologie elle-même. Donc je lui dis, oui, comme tout jeune, je suis un peu anxieux face aux enjeux écologiques. Et deuxième question qui n'a certes rien à voir avec la planète, est-ce que vous pouvez lâcher mon bras, s'il vous plaît ? Puisque c'est très dur de s'engager pour la planète et d'installer des panneaux solaires sur son toit quand on n'a que son bras gauche. Puis là, elle me dit « Mais vous n'avez pas peur que vos enfants grandissent dans un monde qui brûle ?» Donc là, je réfléchis et je me dis « Mais de quels enfants elle parle ?» Du coup, là aussi, je cherche dans mes souvenirs et je me dis « Bon, le petit Égyptien assis en face de moi une fois par semaine, dont certes, je ne connais pas le nom de famille, mais qui porte des chaussures pointues, même si je lui ai déjà dépanné 2-3 goûters à la pause, je ne pense pas que ce soit le mien. » Surtout qu'il était 18h30 et qu'en ce moment, j'ai pas trop confiance en moi. Donc je me suis dit, si j'ai des enfants, en plus de ça, je suis très en retard pour aller les chercher à l'école. Ce qui fait qu'en plus d'être éco-anxieux, je suis un très mauvais père, ce qui fait beaucoup trop d'infos pour un lundi. Puis elle continue, elle me dit, si ça vous intéresse, je peux vous faire signer une tribune. Donc moi, je lui dis, parfait, vous me trouvez un feutre, je signe n'importe quelle tribune, tribune Auteuil, tribune Boulogne, tribunal de Nanterre, tant que c'est la condition pour que vous me lâchiez le bras. Finalement, elle obtempère et elle termine la conversation par bon, et vous passerez le bonjour à Nagui. Donc moi, je me dis, ah oui, c'est donc lui, le petit monsieur égyptien, qui est en face de moi une fois par semaine, qui porte des chaussures pointues. Je savais bien que ça me disait quelque chose, même si du coup, je connais toujours pas son nom de famille. Non, mais je vous avoue qu'elle m'a quand même fait réfléchir, cette dame, sur deux sujets. Premièrement, sur la chance que c'était qu'on avait d'avoir deux bras. Et deuxièmement, sur le fait de vivre à la bonne époque ou non. Et je suis arrivé au constat que si j'avais dû vivre à une autre époque, j'aurais adoré vivre au Moyen-Âge. Je pense que humoriste au Moyen-Âge, c'est sûr que ça aurait marché. Je me serais assis à la table du roi avec mes meilleurs calembours. J'aurais dit Messire Nagui XVI, dont je ne connais pas le nom de famille, et qui portait certes des souliers pointus. Savez-vous comment on appelle un mage qui se met à la chanson? Non. Merlin le chanteur. Voilà. Vous avez dit que j'étais la version sans gluten de Paul de Saint-Germain.
Merci, bonne Mirabel.
C'est quoi votre nom de famille? C'est vrai, ça personne?
Femme. Femme.
Je dis tout le temps.
Je m'appelle femme.
Femme. Ouais. Nagui femme, je savais pas, bah, moi. Ouais. Voilà, j'apprends des choses.
Ça vous plaît?
Vous saviez, vous?
Bien sûr.
Évidemment.
Quelle époque? Le samedi, or c'est en deuxième partie de soirée, ça dépend de la longueur de la première partie de soirée.
Oui, et alors à ce propos, est-ce qu'on peut se parler?
Hors antenne, volontiers.
Oui, d'accord.
Avec des scores qui sont extrêmement... efficace, marquant, même quand la première partie est longue d'ailleurs. Et puis l'entrée de l'invité permanent sur AC/DC. Avec beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance. Une mise en onde, c'est ça aussi qui est fort. Et des invités cette semaine, on n'a pas réussi à avoir le nom de vos invités samedi soir.
C'était l'Eurovision.
Non.
Pardon, non, je plaisante.
Merci.
On a Bruno Le Maire, Camille Combal, Basile Boli, Mathieu Madénian et d'autres, et j'ai oublié.
Sympa. Donc, alors, parce que Bruno Le Maire vient pour répondre à la vanne que vous avez faite il y a quelques semaines sur le...
Parce que j'étais la première à avoir lu le bouquin, parce que devait le recevoir
le
sur
renflement,
Inter,
bah oui.
Sur le renflement. Voilà. Et avant que ça sorte, je demande à tous les chroniqueurs.
Avez-vous lu?
Aucun n'avait lu.
Même pas les chroniqueurs, à tous les invités.
À tous les invités qui étaient que des journalistes politiques.
Qui a lu le livre de Bruno Le Maire? Personne. Et vous avez, j'allais dire, pointé du doigt le renflement. C'est peut-être pas la meilleure formule, mais il vient répondre à ça ou
non,
vous l'aviez déjà lancé?
Déjà, c'est un peu passé. Enfin, on y reviendra quand même. Hein.
Bah oui, mais... bah oui, je me doute. Je me doute, Philippe.
Oui, car il lit des poèmes en allemand de Goethe à sa femme le soir avant de dormir.
C'est
je
vrai,
l'avais
ça
précisé d'ailleurs.
C'est vrai,
ça t'est coupé?
La musique dans vos vies, elle compte énormément, cette musique, on va l'évoquer. Puis tout à l'heure, nous allons continuer de parler de Quelle époque et de son succès avec Cyril Lacarrière, chroniqueur de l'actu média du lundi au jeudi à 9h04 sur Inter. Mais ce que vous écoutiez donc, Léa, par exemple, en 82-83, c'est à cause de la boum.
La boum, bah oui.
Ah oui,
c'était la boum.
Vous rêviez d'être Sophie Marceau?
Non, mais je voulais juste dire, en fait, quand vous m'avez demandé de choisir, d'abord la boum, ça a été comme pour toutes les jeunes filles. Après, j'avais 3 ans, hein, mais 82-83, c'est la boum, c'est mon arrivée en France à peu près, après le Liban. Non, c'est que j'ai rencontré Sophie Marceau pour la première fois. Non, je l'avais déjà interviewée, mais récemment, j'ai lu son livre et j'ai été bluffée par son livre La Souterraine, où j'ai rarement vu une actrice parler autant des autres. Le livre est fantastique, il m'a plu, elle dit des choses sur les femmes, sur les ressentis des femmes, elle rend hommage à sa mère, c'est magnifique, j'avais envie de le dire.
82-83, en effet, votre arrivée en France. Léa, vous parlez souvent de votre père, de votre mère, de l'éducation qui était centrale à la maison, un désir d'excellence, un besoin d'ascension, de continuer intellectuellement à travailler, à avancer. Et vous dites que vous avez été une ado horrible, une gamine horrible. J'ai du mal à imaginer une gamine horrible.
Oh bah si, quand même.
Si. Non, pas horrible.
Pas non, horrible. Non, j'ai eu une crise d'adolescence très violente avec mes parents. Oui, j'ai été dure. J'ai fait tout ce qu'on peut imaginer entre 14 et 17 ans. J'ai séché, j'ai fait le mur, et pété les plombs, quoi. Et voilà, je découvrais les garçons, quoi. C'est mon explication a posteriori.
C'est les garçons.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu fais une crise d'adolescence violente et qu'elle est courte, après, c'est fini. On est débarrassé de la personne relou.
Ouais. Christophe de Chavannes, vous écoutez à ce moment-là.
Ah ouais.
Earth, Wind and Fire.
Oui.
Qu'est-ce que c'est bien. Et c'est un homme de radio à ce moment-là, Christophe de Chavannes.
Absolument. Vous arrêtez vos activités immobilières à l'époque.
Oui.
Ouais. Pour entamer vraiment une carrière à la radio, France Inter, Radio 7. Vous avez raconté comment vous, sur France Inter, vous lanciez le journal de minuit.
Oui.
C'était une joie sans précédent.
C'était formidable, c'était mon rêve. Donc je préparais ma pile de disques parce qu'en fait, il y avait une émission qui passait juste avant enregistrée et c'était des bobineaux à l'époque, c'était moins numérique qu'aujourd'hui et il fallait une permanence d'antenne, c'était mon job sur ma fiche de paye de 121 francs brut de l'heure.
Ouais.
Il y avait permanence d'antenne.
C'est mieux payé à l'époque.
121 francs de l'heure
brut. De l'heure.
De l'heure, t'es sûr que c'est de l'heure?
De l'heure. En francs, hein.
Ouais, je suis d'accord.
Bah, ça fait 15 euros.
Non, mais je pensais beaucoup pour l'époque.
Bah, j'ai ça depuis 30 ans en tête, donc je vois pas. Alors, c'est comme le quatrième de couverture. Voilà, non, c'est un bon.
Moi, j'étais à Radio France Côte d'Azur.
Côte d'Azur.
Et je gagnais combien? Et on était payé beaucoup moins cher que ça. On était plutôt à 30 balles de l'heure qu'à 120.
Mais tu faisais 6 heures.
De l'heure?
Ouais, 30 francs de l'heure, oui.
Non.
Si.
Ah oui, mais je faisais 2 heures, moi. Pardon. Alors, je faisais 121 francs brut
pour la
voilà.
Séquence, d'accord.
Et je faisais peut-être 2 heures. Je faisais,
d'accord.
Parce que donc, je venais avec ma pile de disques, qu'on mettait en place avec le technicien. Moi, je croisais tout de mon corps pour que la bande pète. Parce que si la bande pétait, je prenais l'antenne. Et là, voilà.
Que vous racontiez
Rien, là, ça n'a jamais pété.
Mais qu'est-ce que vous vous prépariez à raconter?
Ah, mais je ne sais pas. Alors, je préparais 2-3 bricoles.
Ah, quand même.
Non, j'étais très mauvais. Moi, j'avais fait des papiers avant. J'avais été un peu journaliste.
Oui.
Ensuite, je le fus encore la nuit où j'ai fait des petits flashs et tout ça, à RTL, à France Inter. Mais j'étais persuadé de ne pas savoir être animateur. Bon, enfin, la bande ne pétait pas. Et donc, je disais, vous écoutez France Inter, tigiling, tigiling, tigiling. Vous écoutez les informations, tigiling, José Sétien. Et il y a 12 ans, 15 ans, je prends la bagnole sur l'autoroute, je vais chez moi à la campagne, je mets Inter la nuit et j'écoute, vous écoutez France Inter, bim 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 bim, il est minuit, les informations, José Sétien. Putain, 30 ans après, c'est le même homme qui a pris sa retraite il y a 10-12 ans, je crois, présentait les infos de minuit, 1h du matin aussi, parce que je le lançais à 1h, voilà, j'avais deux.
Deux fois.
Ça devait être 100, mais non, j'étais à 121 francs.
D'accord, ok. La radio, c'était Radio 7. Écoute un peu, cette radio, elle est terrible, c'est ça le
Et je me suis fait virer par Marie-France Brouillard.
Par Marie-France Brouillard,
au bout d'un mois.
Grande prêtresse des divertissements de TF1 ensuite.
Immense. Et puis grande.
Productrice aussi.
Oui, tout. Ouais. Enfin,
qu'on retrouve au Festival du film d'Angoulême.
Voilà, toujours. Une femme formidable que j'aime beaucoup, avec laquelle je me suis réconcilié 30 ans après, parce qu'elle m'a foutu dehors de Radio 7. Influencée même très fortement par une fille de la radio qui est devenue productrice de cinéma et que j'aime beaucoup aussi aujourd'hui, qui s'appelle Halberstadt.
Michel
qui était hier en matinale.
Et qui était animatrice à Radio 7 et qui m'a vu venir pas chaleureusement, on va dire, et qui a dit il fait de la merde. Et comme Brière était en vacances, elle m'a convoqué, elle m'a dit je vous ai écouté, c'est de la merde. J'ai dit vous m'avez écouté à Toulouse. Parce que Radio 7, c'était quand même la radio parisienne. Hein. Elle m'a dit oui, je me suis fait envoyer des bandes, donc voilà, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Dehors.
Wow.
Et donc je suis sorti, j'ai pleuré sur le trottoir à coup.
Évidemment.
Et je me suis dit si je ne re-rentre pas dans la maison de la radio, je suis mort. Donc je suis re-rentré après, bon, il s'est passé plein de choses.
En 2000, Léa Salamé, vous écoutiez Bowie.
Et en 2000, précisément en 2001, le 11 septembre, c'est un épisode que vous racontez en ce moment, souvent, forcément. Vous étiez à New
étudiante
York,
encore.
Vous étiez étudiante, vous racontez...
À NYU, à New York University.
Ouais, la sidération, l'incompréhension, et tout d'un coup être au cœur d'un moment qui va marquer terriblement notre histoire et l'histoire à très très long terme. Après le 11 septembre, vous racontiez que vous vouliez devenir Christiane Amanpour, cette grande journaliste, reporter, vedette de CNN. Mais avant, ce qui m'a intéressé dans une interview, vous avez dit avant, quand j'avais 20 ans, je voulais être le Thierry Ardisson de la période Rive Droite. Rive Gauche.
Oui, c'était l'émission déjà que je regardais. J'adorais déjà cette émission. Oui, ouais, déjà. Ouais. Non, mais de toute manière, je lui ai dit, Ardisson, quand j'étais jeune...
Carmouze était rédac chef de ça.
Ouais. C'est et Rive Droite, Rive Gauche, moi, j'ai grandi... Enfin, je regardais à la télévision à 20 ans, Rive Droite, Rive Gauche, tous les soirs sur Paris Première, où il était, c'était le Ardisson érudit, intelligent, qui avait des chroniqueurs, qui avait Elisabeth Quin, qui commençait, Bec Bédé, qui commençait, etc. Et j'ai adoré cette émission culturelle. Il y avait... C'était le théâtre, le cinéma, la littérature, Jacques Nerson pour le théâtre. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs. De... Et je voulais ça.
Justement, cette émission, Léa Salamé, et le travail de Thierry Ardisson, que l'on remarque pas, et c'est d'ailleurs c'est la force et la fluidité de l'émission quand elle passe à l'antenne, mais vous le savez tous les deux, dans le travail, elle est extrêmement structurée. Il y a des tiroirs dans lesquels on range, on catégorise, on séquence, ouais, on donne des rendez-vous, il y a des jingles, il y a des musiques, et il y a des rendez-vous, j'ai presque envie de dire, vous êtes deux enfants de la radio aussi. La radio aussi, c'est l'école de la structure, c'est l'école du rendez-vous.
Ouais, mécanique.
Oui, du top horaire, ouais, et de la mécanique. C'est ce que vous avez piqué dans quelle époque, ça?
C'est ce que j'ai piqué dans quelle époque, à la fois, effectivement, à la fois Ardisson ou à la fois la radio. Une matinale radio, par exemple, la matinale d'Inter,
c'est de mettre une mécanique
c'est une
dans,
musique,
dans un
c'est,
talk,
voilà. Et quand tu dépasses d'une minute, ou quand la musique rappe ou rit, pour les auditeurs le remarquent immédiatement. C'est ça, c'est un truc d'habitude aussi.
Mais, ouais, mais on a une petite latitude quand même.
Oui, un peu plus qu'en radio.
On a une petite latitude aussi parce qu'il y a le montage. Il y a le montage, c'est pas en direct, mais c'est ce qu'on veut, on revendique. Hein, ouais, le montage. On pourrait le faire en direct, hein. Y a pas de
Moi, je connais des mecs qui montent pas. Hein. Ils font 24 minutes de 24, 27 minutes de jeu. Ils font 24.
Mais, tu vas faire toute émission.
C'est un compliment que je. Moi, je ne saurais pas le faire.
Vous l'enregistrez quand l'émission? Parce que vous avez
vendredi soir. Soir.
Problématique avec l'actu et rester
vendredi soir. D'accord. Diffusé dimanche. Soir. Samedi soir.
Qui sait pas.
Diffusé dimanche soir.
Si je peux me permettre. Si je peux me permettre.
Si je peux me permettre, on dit.
Non, si je peux me permettre.
C'est un autre projet.
C'est autre chose.
C'est d'ailleurs. Je crois à la fois l'une des qualités de votre émission et l'un des soucis de votre émission. Qualité, c'est que vous êtes au plus proche de l'actualité, puisque entre le vendredi soir et le samedi, il y a quand même plus de chances qu'il se passe moins de choses qu'entre le jeudi et le samedi.
Ça, c'est pas faux.
On t'est jamais. Mais en tout cas, vous réduisez les chances. Inconvénient, c'est que vous avez moins de temps, justement, pour peaufiner le montage, pour travailler les plans de coupe.
Ce qui veut dire...
Il critique le montage de Régis Redard.
Que de temps en temps, il y a un montage qui est fait un peu à la hache.
C'est en progrès.
Reconnaissez que c'est en progrès.
La première était sévère.
Vous savez, la première, on a enregistré 3h30. Aussi, nous, on est meilleurs. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à enregistrer 2h45 pour un rendu de 2h.
Je pensais surtout au plan de coupe qui
Non, mais au début, c'est
un travail supplémentaire.
Alors moi, pour le coup, j'étais...
Il avait des sueurs.
Moi, je passe des nuits au téléphone avec eux parce que pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas de ce qui me concerne.
Oui.
Parce que Léa, ça ne me regarde pas. Non, au début, je disais, mais Régis, il me dit, ouais, mais j'assume. Je dis, oui, mais non. Je dis, moi, il y a des gens qui sont pas du tout du métier, qui disent « what the fuck ». Le mec, il a le bras en l'air, le plan d'après, il se gratte les couilles. J'ai dit « non ».
Et on ne sait pas qui est allé vers quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. Ni à quel début. Quoi. Voilà. Donc, non, ils sont en progrès. Ils sont super en progrès. Mais la grosse difficulté, c'est qu'ils quittent, on se sépare à 1h30 du matin.
C'est ça, ils passent
et
leur nuit.
Et qu'ils doivent rendre à 13h à France 2.
Vous connaissez beaucoup de producteurs aujourd'hui qui passent une nuit entière, une nuit blanche. Le producteur lui-même, hein, pas, il délègue pas à peaufiner son
truc. Moi, je lui ai demandé si je pouvais déléguer, j'en fais la moitié avec joie, comme ça on va un peu plus vite. Et moi, je sais.
Et
que...
moi, vous saurez ce qui serait.
Non, mais c'est pas ça, parce que moi, je suis très pointu sur le montage.
En 2001, Christophe de Chavannes, vous écoutiez les Daft Punk. Qui reviennent, je dis, dans l'actualité du disque. Ouais.
Incroyable.
C'est top.
Incroyable.
Top.
Non, mais ces types sont des génies quand même. Ces types peuvent descendre, ont vendu des dizaines de millions de disques sur travers la planète et peuvent descendre les Champs-Élysées sans que personne leur pose la moindre question. C'est extraordinaire. Et je les ai rencontrés et évidemment, ils sont adorables.
Et c'est pas vraiment une période de célébration ou de fête à ce moment-là de votre vie, Christophe de Chavannes. Vous faites virer par Étienne Moujotte.
Oui, ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais elles me sont arrivées plusieurs fois même.
Là, c'était la plus sévère. Hein, quand même.
Ouais, c'est douloureux.
Quelle année était-ce?
2000.
Non, parce que 2000, j'ai au contraire, j'ai présenté 17h à 20h le passage du millénium, qui a cartonné. C'est la fameuse image, je suis à genoux devant l'écran, devant Chazal, machin. Ça, c'est en 2000.
Non, mais c'est sur quand les rendez-vous réguliers, ça, c'est spécial.
Ah,
les rendez-vous réguliers, les émissions régulières.
C'est tout le temps, je me suis fait lourder, en fait. Si je regarde ma carrière.
Non, mais parce qu'il y a eu même Comme un lundi, dont on n'a pas parlé ça, tout à l'heure, qui était avant.
Un succès de TF1.
Un carton à 40% d'audience deuxième partie de soirée.
Qui a été arrêté, ouais.
Quelle est l'explication la plus douloureuse quand on se fait virer? Est-ce qu'on se fait virer parce que tout d'un coup il y a quelqu'un d'autre ou on vous dit que le public ne vous aime plus?
C'est ce qu'il m'a dit. Un jour, il m'a convoqué, il est venu me voir dans mon bureau. Parce qu'il me convoquait, mais j'y allais pas, donc il a fini par venir. Et il m'a dit, tu vois bien que le public veut plus de toi.
Ça
sort de sa bouche. Hein. Donc après, il faut avoir les épaules, parce que quand on fait ce métier, on a plutôt envie d'être aimé, puis particulièrement par le public, pas forcément par le diffuseur, si jamais on n'est pas d'accord. Et moi, je voyais pas dans les yeux des gens cette détestation dans la rue. Quand je croisais les gens, puis je faisais de la course automobile à travers toute la France, je vous garantis que je voyais tout, sauf du désamour. Donc j'y croyais pas, mais quand même, le mec qui te dit c'est bon maintenant, les gens ne veulent plus de toi.
On a des analyses, on a des
études. Oui, on a des études, il y a tout. Mets-toi au vert, mais pas à moi. Genre, va-t'en, t'as fait ton temps. Et j'y croyais pas, en fait. Donc c'était un peu compliqué à gérer, mais j'ai fait même monter un collaborateur de l'époque pour lui dire Étienne Mougeot a dit quelque chose, je voudrais qu'il le répète devant toi, et l'autre Étienne Mougeot direct sans problème.
Mais pas d'état d'âme.
On peut
dire ça. Il y a pas beaucoup
d'état
d'âme.
Pas beaucoup. Ni le lait.
Quand Léa vous a contacté.
Mais ça a été 20 ans de ma vie, c'était dur. Mais je le fais dans mon bouquin, ça. Je raconte 2-3 trucs.
Quand Léa vous a contacté. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que tout d'un coup, il y a une sorte de retour.
Pour être tout à fait honnête.
J'ai vu l'article de Society sur vous et plein de papiers. Tout d'un coup, il y a une forme de retour de la Christophe de Chavannes-Mania. Il y a une envie de vous voir.
Il est devenu hype, là.
Society vous consacre quand même 4-5 pages. C'est pas anodin.
Il est reçu sur France Inter, il est dans Télérama.
Il était déjà reçu sur France Inter, on l'a reçu il n'y a pas très longtemps.
Il est demandé par Nagui et tout. Enfin,
vous avez reçu il n'y a pas si longtemps que ça.
Je voudrais juste que les journalistes que j'apprécie et que j'aime arrêtent de mettre « Coucou, c'est encore lui ». Putain, c'est le titre.
Marronnier, c'est marronnier, c'est facile. C'est facile de le dire.
C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas le faire, si c'est trop facile.
Ouais.
Voilà.
Enfin bon, peu importe.
Donc peu importe.
Peu importe. Parce
réaction.
Quand Régis m'appelle, il me laisse un message. Je ne le connais pas, Régis Lamanaroda, je ne sais pas qui il est. Bonjour, je suis producteur. J'ai un projet à la rentrée. Il ne me dit pas ni quoi ni qu'est-ce. Il me dit j'aimerais bien qu'on discute. Bon, le mec a l'air sympa sur le répondeur, je le rappelle. Et après on s'entend bien. Et on s'entend bien. Non, j'étais tout d'un coup, je sais pas. Ça m'arrive.
Ouais, vous avez une image qui a traversé votre esprit.
Oui, très agréable.
C'était Daniel Morin-Nuf.
Et voilà.
C'est son nom. Il a dit agréable.
Ouais, avec sa chaîne en or de ouf.
Une petite balle.
Et donc on discute une heure et demie, ce qui est long au téléphone. Puis on déjeune, on rediscute. Et puis on déjeune tous les deux. Et il me dit, voilà. Raconte le projet. Et pour moi, c'est une embellie. Donc voilà, je suis très très content. C'est une embellie. Et puis je rencontre Léa dans une chambre d'hôtel.
Cette phrase, elle est bizarre.
J'ai mes jambes nues.
Parce qu'ils rentrent
en Bermuda.
Je rentre de campagne. J'étais en short avec des pompes de rando. Genre. Et puis ça n'a pas duré longtemps.
C'est ce qu'on dit.
Parce qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas.
Vous avez vu
tout de suite, ça a duré 45 minutes et on savait que c'était lui et il savait que c'était nous.
Vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas où je serai l'année prochaine, sous-entendu, ni en radio ni en télé.
Qui a dit quoi?
Vous avez dit ça tout à l'heure.
Ouais.
Tu ne sais pas où tu seras l'année prochaine?
Tu sais.
Le samedi soir, non?
Tu sais, toi?
Je sais pas, non.
Si,
vous savez.
Vous n'avez reçu aucun courrier.
On n'est pas encore viré, si c'est la question.
Vous n'avez reçu aucun courrier, même d'une nouvelle commande.
Ça c'est le producteur. Franchement, c'est Régis, faut lui demander.
Et vous n'êtes pas au courant si vous êtes là ou pas.
C'est-à-dire que
non, mais Léa,
je vois pas pourquoi ça s'arrêterait.
Je pose la question.
Honnêtement, non, je vous assure, je fais pas du. C'est que pour l'instant, on n'est pas dans la négociation. Enfin, j'en sais rien.
Est-ce que ça a l'air con ce qu'on dit? On aurait dû déjà signer, c'est-à-dire
les chiffres sont bons, ça marche bien. Voilà, a priori,
on est un peu au mois de mai quand même. Il serait temps de vous inquiéter.
On est viré, on sait pas.
Je sais pas. Un bel écran. Un problème physique. Je vais aller profiter des dernières heures qui me restent.
Carpe diem. Auriez-vous envie ou avez-vous eu des propositions pour faire autre chose, d'autres émissions sur France 2 maintenant que vous êtes un animateur de France 2?
Non.
Si, c'est pas vrai. Il voit des gens.
Ah non,
et franchement, comme vous l'avez dit sur la radio, je vais le dire sur la télé, je comprends pas. Je vais vous le dire.
Mais dis pas
moi,
si. Bah, dis pas si.
Tu les as vus quand même.
Non, mais je vois des gens. Je réponds à la question de Nadie. Et... Avez-vous des propositions pour faire autre chose?
Ouais, mais je moi, c'est... suis alors, une force je vais de proposition dire, et je vais permanente. Dire, et je pense, et je sais pas si vous êtes d'accord. Vous qui avez un œil, Nadie, qui êtes le taulier, est-ce que vous trouvez ça normal que. Moi, je pense que Christophe de Chavannes mérite d'avoir une autre émission aussi à la télé.
Oui, alors vous le verriez dans quelle autre émission?
Dans un prime qui vienne. Quelquefois. Je suis sûre qu'il... Je vois comment les gens sont avec lui, en fait. Il avait tort, Étienne Moujotte. Il y a encore de la pétence pour Christophe de Chavannes.
Vous en avez
totalement d'accord avec
vous. Vous en avez d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'il a envie...
Ou alors du jeu, je ne sais pas. C'est vous le spécialiste.
Il a envie... Jeu, je ne suis pas sûr qu'il ait envie d'en faire, voilà.
Ça dépend du jeu, mais je ne suis pas sûr.
Mais de proposer quelque chose, en tout cas. Vous êtes une force de proposition.
Non, en plus, là, j'ai une idée très précise en tête de quelque chose dont je voudrais vraiment m'occuper, parce que c'est notre présent, notre futur et tout le bordel.
L'environnement.
Donc, je voudrais vraiment... Donc, j'ai un vrai truc à présenter. Maintenant, j'ai un peu de mal à avoir des rendez-vous, mais j'ai très bon rapport avec eux.
Quelle époque pourrait être un prime aussi événementiel?
Oh, ça pourrait être événementiel, je pense tout à fait.
Je sais pas. Je pense qu'il faut le protéger.
Moi, je suis sûr.
On va en parler avec un spécialiste, Cyril Lacarrière, qui nous a rejoint, rédacteur en chef et chroniqueur à Zoom Zoom Zen. C'est tous les jours de 15 à 16.
Bonjour.
Bonjour.
16-17.
C'est l'année prochaine que.
Non, on est à 16h là.
C'est l'année prochaine que ça bouge, c'est ça. Du lundi au jeudi, et puis vous êtes à 9h04.
Gênant.
Tous les jours, du lundi au jeudi, sur cette même antenne. Bonjour Nadie.
Voilà, bonjour. Non mais attends, soyons clairs sur l'horaire. En ce moment, vous êtes
c'est
de 16h
à 17h.
Voilà. Et l'année prochaine, ça va peut-être changer d'horaire.
Si vous le dites.
On ne sait pas.
Bah, c'est vous qui faites l'actu média.
Je sais ce que je sais, je sais ce que vous savez, vous savez ce qu'on sait, vous faites comme vous voulez. Alors,
moi, si je
fin du rendez-vous.
Si je crois ce qu'on croit, que je vois ce que je vois, bah, je ne suis pas mécontent de penser ce que je pense non plus.
Ça va être long. Hein.
Les talk-shows à la télé française, il y a toujours ce marronnier, ce rêve de faire les talk-shows, les late. À l'américaine, ça n'a jamais vraiment eu du succès en France.
Il avait déjà la main.
Deux secondes, j'ai proposé à Canal, j'avais eu un déjeuner ou un dîner même formidable avec Belle-Mère, parce que je voulais proposer un daily late show, et je suis sorti du dîner, pour la première fois de ma vie, j'ai appelé un collaborateur, je dis c'est bon. J'ai dit putain c'est bon, là c'est top, et non. Donc, mais voilà, moi ça fait 20 ans que je voulais faire ça.
Tout le monde en a rêvé, tout le monde s'y essayait, et quel que soit l'horaire quotidien du talk show, et pourquoi ça prend pas tant que ça?
Le late show à l'américaine.
Ouais.
Parce qu'on ne sait pas le faire, et puis je pense que les Français, en deuxième partie de soirée, en tout cas la semaine, ils ont envie peut-être de regarder autre chose, tout simplement. Et on l'a vu là avec Chabat, pourtant personnalité ultra populaire, que les gens aiment, on a envie de regarder un Chabat. Après, l'émission, elle avait un défaut, c'est qu'elle n'était pas connectée à l'actu. Donc du coup, les gens la regardaient, mais c'était très froid, c'était très beau.
Il faut préciser que pour des raisons de coût, elle était enregistrée en série. C'est-à-dire qu'en une journée, 3-4 émissions étaient enregistrées. Ils n'avaient pas les moyens de le faire tous les jours en direct.
Ouais, là où les late shows américaines, ils s'enregistrent le jour même pour diffuser l'après-midi.
Sauf que le truc américain ne coûte pas une thune. Il y a un décor tout pourri. Ah si, il y a les musiciens qui coûtent cher, mais le reste...
Et les 30 auteurs qui font les
vannes. Ah, les 30 auteurs,
oui. La star coûte très cher aussi.
Et la star est payée.
Ça a l'air très cheap, mais ça coûte très cher. Voilà.
Je crois que même les invités sont payés et les textes des invités sont écrits.
Ils sont travaillés par l'équipe de scénaristes. Absolument. Donc, en fait, la difficulté, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en France en deuxième partie de soirée? Est-ce que c'est un late show? A priori, non. Peut-être votre projet, Christophe, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, jusqu'ici, ça n'a jamais fonctionné, et même avec Chabat.
Est-ce que le problème n'est pas aussi dans le vivier des invités potentiels pour tous les jours avoir quelqu'un, une star, qui ait du biscuit à faire pour faire du live, pour faire. Encore une fois, ce que font les Américains, ils le font à une dimension planétaire, avec des stars hollywoodiennes qui viennent juste pour faire une vanne 5 minutes et avec Harry Styles qui vient faire un live et qui se barre sans faire d'interview.
Il y a des quotidiens
inimaginables en France.
Ah, moi je crois pas du tout que le problème ce soit le vivier, parce que regardez, il y en a des gens connus qui viennent.
Il y a même des quotidiennes télé à 19h.
En revanche, là où c'est vraiment très différent, c'est que les stars américaines acceptent de jouer le jeu, acceptent de faire des sketchs. De Cône, au moment où il reprend Nulle part ailleurs, donc Le Grand Journal, pardon, à la fin de l'époque en journal, il tente ça la première saison, tout au début. Et ça fait un flop, parce qu'il fait un truc de sketch, je me souviens qu'Elise et Moon, et ça prend pas du tout, au contraire, c'est hyper malaisant sur le plateau. Ouais. On sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mal joué. Et donc, en fait, on n'a pas cette culture-là
en France.
Peut-être
qu'on n'aime pas ça. Peut-être qu'on n'aime pas ça. Peut-être que le public français aime une forme de sincérité, et que chez les Américains, ils aiment bien le jouer, le fabriquer.
Peut-être. Peut-être, mais en tout cas, on aime bien le regarder de ce qui, quand ça se passe chez les Américains et avec leurs stars à eux. Effectivement, chez nous, je pense qu'on n'a pas envie de se prêter à cet exercice, les invités. Et nous, est-ce qu'effectivement on a cette appétence-là? Pas certain.
Et est-ce qu'on y met assez d'argent aussi? Parce que c'est ce qu'on avait l'air de dire.
Moi, quand j'ai rencontré David Letterman, il avait 17 auteurs, effectivement. J'oublie un tout petit peu le détail. Mais les artistes français n'ont pas du tout de open mind des artistes américains qui peuvent faire n'importe quoi. Et en France, t'es attaché presse. Non.
Ne fais pas ça pour ton image.
Pour ton image, ne fais surtout pas ça. Alors qu'à l'époque de Coucou, ils faisaient n'importe quoi. Parce que c'était plus cool.
Mais il
n'y
avait
cool,
pas les réseaux sociaux à l'époque de Coucou. C'est ça le problème, c'est que maintenant ils ont peur du bad buzz sur les réseaux sociaux. Ouais.
Et puisqu'on parle d'argent, il faut quand même préciser une chose aussi. Sur une émission américaine, a un marché de plus de 300 millions de personnes à voir. Et donc l'amortissement et le prix d'une émission, le coût d'une émission n'est pas le même.
Le spot de pub n'est pas le même prix non plus.
Carrément. À la télé, qu'est-ce qu'on a comme talk en ce moment, en plus de Quelle Époque, qui est hebdo? On a C'est à vous sur France 5, on a Touche pas à mon poste sur C8, c'est ça, et Quotidien sur TMC.
Absolument. Non, il y a aussi 28 minutes sur Arte.
D'Elisabeth Quint.
Qui est aussi un talk quand même.
On est plus dans l'info, oui, c'est ça.
Oui, c'est de l'info, mais c'est une autre forme de talk, mais c'est quand même.
Sur LCP aussi, il y a un talk. Sur LCP aussi, il y a un talk.
Ah, je savais pas.
En fin d'après-midi.
C'est qui?
Je vais vous le dire quand, dès que ça va revenir.
Myriam Ankawa,
ouais. Voilà. C'est l'après-midi, ça?
C'est le soir, c'est à 19h,
oui,
je crois.
Oui, fin d'après-midi, pour moi, c'est 19h.
Très bonne, d'ailleurs. C'est bien.
Il y a une guéguerre dans la communication pour savoir quel est le talk quotidien le plus puissant, le plus suivi.
C'est Quotidien. Plus regardé, c'est Quotidien.
Okay, ouais.
Après, non, mais tous font des découpages qui valent rien, si ce n'est juste de faire de la com, sur qui est le premier à telle heure, sur telle demi-heure, etc. Le talk le plus regardé aujourd'hui en France, c'est Quotidien.
Et ça fait combien de téléspectateurs, pour donner une idée?
De moyenne, et là, c'est la question là. Et,
un million
ça, non, plus que ça, on est plutôt autour des 2 millions.
Sans découpage.
Non, sans découpage,
ça fait 1,3 million.
Exactement.
C'est ça, je suis pas loin.
C'est ça la force, c'est-à-dire la malice de ces émissions qui durent 2 heures, c'est qu'elles sont découpées en 3-4 parties et qu'elles communiquent sur une partie qui peut durer que un quart d'heure en disant on a réalisé un score de 2 millions. Et quelques, si on prend la moyenne, en effet, je suis d'accord avec Léa Salamé, on est plus proche du million que des 2 millions.
Non, je crois pas, en ce qui concerne le Quotidien, la deuxième partie où ils mettent les 2-3 parties.
Oui, elle dure 20 minutes.
Parce que c'est coupé par de la pub.
Oui, mais c'est ce qu'ils communiquent sur la.
C'est C8 qui a commencé comme ça.
C'est Hanouna qui découpe et qui dit on communique sur les 20 dernières minutes où effectivement ils atteignent le 2 millions.
Mais ce qui est clair en tout cas, c'est qu'ils se sont alignés tous les deux, ils ont le même découpage, donc la comparaison des chiffres en tout cas est la même. Cyril Lacarrière, merci d'être venu brièvement. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
Je vous en prie,
sur les talks et l'avenir des talks en France.
Oui, l'avenir.
En fait, c'est un genre qu'on ne réinvente pas. Le genre, on ne réinvente pas, ce qu'on réinvente, c'est qui l'incarne et l'ambiance qu'on met. Voilà, que Léa fasse un talk, par exemple, c'était pas évident.
Et qu'elle continue.
Elle vient de l'émission politique, c'est pas mon sujet. Elle vient de l'émission politique. Est-ce qu'on avait envie de passer la soirée avec Léa, se marrer avec Léa? C'était pas évident. Voilà.
Non.
Il a raison, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on a dit au patron de France Télé, c'est elle n'est pas samedi soir.
C'est ça. Et ce qu'on disait également tout à l'heure, c'était l'importance de la rigueur de l'horaire et de respecter les horaires.
Il va s'en prendre une.
Merci Cyril. Lisa Delmoitié, tout à l'heure, de quoi vas-tu nous parler, Lisa?
Eh bien, on va parler du musée Rembrandt à Amsterdam qui attire des visiteurs en proposant de leur tatouer les œuvres de l'artiste. Du coup, ça m'a donné une idée pour attirer les gens à mon spectacle. Je vais leur tatouer mes plus célèbres blagues de cul.
Ce sera dans la deuxième partie. Léa Salamé et Christophe de Chavannes sont nos invités jusqu'à 12h30. Tombez ! C'est la bande originale avec Léa Delmoitié, Tristan Lopin, Paul Mirabel, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Et nos invités, Léa Salamé, Christophe de Chavannes.
Bonjour Nagui.
Bonjour Nagui. Wow.
Ah, c'est pour les gens qui montent dans le train.
Bonjour. Moi, tu dis bonjour, moi je répète.
Philippe Cavrivière et Paul de Saint-Sernin sont également avec vous dans Quelle Époque. Il n'y avait pas d'humoriste assez bon d'Inter pour venir avec vous dans Quelle Époque?
Bonjour Nagui. Bonjour Nagui.
Bonjour Nagui.
On recommence tous, je crois.
Si.
Vous êtes allé faire vos courses à RTL?
Non, mais c'était important de prendre une plume.
Philippe Cavrivière, il était là avant.
C'est la continuité.
Philippe Cavrivière, c'est la continuité. Et j'étais ravie qu'il reste avec nous parce que je pense qu'il était très dragué. Et vous savez pourquoi il a accepté de rester? Alors que franchement, il y avait beaucoup de
conditions.
Christophe,
vous savez pourquoi il m'a dit ça? Il m'a dit j'aime ton rire.
Ah ouais.
Je c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait.
Non, mais je peux
parce qu'il aime
je
les rires féminins ouais, et il m'a dit voilà. Donc je trouvais que c'était joli. Et c'est, Paul et de Saint-Sernin, c'est Régis qui l'a trouvé sur un truc une télé de foot. Je connaissais pas.
Et je pense et pas prendre beaucoup de risques en disant que les humoristes qui viennent autour de cette table aussi attachent beaucoup d'importance au rire en général, mais au son aussi du rire, à l'écoute même des invités, parce que c'est toujours extrêmement délicat de balancer comme ça une vanne, y compris avec un papier qui a été écrit ou une improvisation de Paul, en tout cas faite en plateau, c'est super délicat.
C'est hyper dur
c'est
à faire. C'est
moi,
hyper dur.
Je suis une merde pour ça parce que je suis très.
Et lui, il rigole pas quand il veut.
Je suis pas rieur.
Mais oui, mais comme je dis, mais ris quand
non,
même.
Non, mais je ris. C'était très drôle, hein, ce que vous avez fait, franchement. Ah, et je me dis, putain, merde. Je,
non, mais tous les humoristes ne sont pas rieurs non plus. Tous les humoristes ne sont pas rieurs de façon sonore. Ils peuvent rire intérieurement.
Voilà, c'est ce qui m'arrive.
Mais pas de façon.
L'avantage à la télé, c'est qu'on peut voir le sourire. À la radio, le problème, c'est que le silence d'un sourire.
Moi, je trouve que c'est une politesse de rire. Pour l'humoriste.
Mais je sais pas le forcer, voilà. Moi.
Et Christophe n'y arrive pas.
Non. Est-ce que vous, avec ce fameux rire
après légendaire, c'est une caution.
Il y a le rire Léa Salamé maintenant, c'est-à-dire l'éclat de rire qui est de profil avec la main devant la bouche.
Le profil gauche.
Ouais, c'est parce que j'ai les dents en avant. C'est pour cacher mes dents. C'est vrai, en plus, c'est un geste que je fais depuis toujours parce que j'ai les dents en avant, un peu de lapin.
Il est très joli ce décapsuleur.
On n'a plus le droit. Plus,
hein. Ah si si, non. On a plus le droit.
C'est le physique, on a le droit.
Est-ce qu'il y a des vannes, Léa Salamé, qui portent tellement dans le sens, y compris le sens politique, où vous vous dites, ah j'ai pas le droit.
Cabrivière, j'ai pas le droit. Honnêtement, il va très loin. Et il y a des fois, je me dis, c'est pas possible. Il fait tout. Parfois, il me fait les handicapés, les femmes, les homosexuels. Il peut faire un mix total de politiquement incorrect. Et il y va. Je me demande à chaque fois comment ça va passer, ça passe avec lui, je sais pas pourquoi.
Et moi je trouve ça très injuste, parce que si moi je fais le dixième de ça, je me fais défoncer, y compris par...
Parce que c'est pas votre, entre guillemets, votre rôle n'est
emploi,
pas uniquement de faire rire, parce que vous pouvez poser des questions sérieuses.
J'aime bien faire le couillon. Voilà.
J'entends. Eux, leur rôle, c'est que quoi qu'ils disent, ils doivent faire rire. Et on n'attend pas d'eux la bonne question sur le livre ou la bonne analyse de la situation. Moi je parlais en termes politiques, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec des invités politiques dans l'émission à rire de certaines vannes sur eux, et ensuite trois jours après...
Ça me dérange pas, parce que ça, j'étais habitué... Oui, mais j'étais habituée avec Charline, franchement, qui est allée frontale après le 7h50 ici à Inter. Mathieu Noël aussi, il y va de plus en plus. Donc honnêtement, et quand je reçois, parce que ça m'arrive de recevoir des hommes politiques un texto en disant « j'ai vraiment pas apprécié tout ça », je réponds, je dis « vous pouvez me critiquer autant que vous voulez, mais il y a quelque chose qui est intouchable en France, c'est les humoristes. On ne censure pas un humoriste, donc je ne dirai rien. » Et je vous assure que même... Toujours j'ai cette réponse-là et ça me vaut d'un politique qui fait la gueule pendant un certain nombre de temps et qui veut pas venir sur le plateau parce que il a l'humoriste, etc. Mais ça, j'ai jamais varié.
L'éclectisme des invités, c'est aussi l'une des recettes de Quelle Époque, c'est de ne pas avoir que des politiques, mais d'avoir tout le spectre possible de ce qu'il y a dans l'actualité.
Et oui, évidemment. Et je vais vous dire simplement, c'est ce qui me manquait sur l'émission politique. C'est-à-dire que c'était trop. J'étouffais un peu à la fin. C'est un peu le problème. Mais en même temps, j'ai pas envie d'aller dans le tous pourri, dans le machin, parce qu'on a besoin des politiques.
Non, c'est pas ça. C'est qu'on a besoin d'aération. Et ce que disait tout à l'heure Tristan, moi, le seul reproche que je puisse vous faire, c'est que je ne m'endors pas avant 2h du matin, maintenant, le samedi soir, à cause de vous. Ouais, mais c'est le seul soir où j'aurais pu dormir. Vous voyez, mais en tout cas, c'est un bonheur de vous voir. C'est une réussite totalement méritée. Quelle Époque et cette équipe-là, Christophe de Chavannes, Léa Salamé, Philippe Cavrivière et Paul de Saint-Sernin, que je ne connaissais pas avant de le découvrir dans l'émission.
Et en vrai, on s'entend bien aussi. Vous voyez
bonheur.
Ce que je veux dire.
Très bonne ambiance.
Vous savez qu'à la télé, on ne peut pas vraiment mentir, parce que tu sens les choses. Et je pense que les gens s'imaginaient, parce que c'est quand même quatre personnalités, que peut-être on allait se mettre sur la gueule ou quoi. Et en fait, non, ça se passe vraiment.
Bah, nous deux, c'était tellement annoncé bêtement, tout le monde. Oui, ils vont se becter, il va la becter.
Non, ce qui a surpris. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que vous acceptiez entre guillemets d'être en deuxième position à côté de
même lui, ça le surprend encore.
Non, ça a pas été facile. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai job. Mais maintenant, j'y suis.
C'est une vraie intelligence au-delà du job. Ouais. C'est une vraie intelligence et ça va même dans l'ère du temps de la parité, de la valeur.
C'est la première fois. En plus, moi, j'aime bien faire des trucs pour la première fois.
C'est réussi.
C'est la première fois qu'il y en a qui a.
Mais c'est classe, vous savez. Je crois que c'est Cécile Duflot qui lui a dit. En fait, vous êtes un homme déconstruit, parce que parfois, il se fait latter parce qu'il a des phrases un peu à l'ancienne. On lui dit « Ah non, tu peux plus dire ça, on est en 2023 ». Mais je trouve que c'est très classe, parce qu'il faut quand même que les auditeurs sachent que Christophe de Chavannes, à un moment, c'était immense, c'était écrasant, et qu'il accepte aujourd'hui d'être, ouais, numéro 2, j'aime pas trop ce
en
mot,
binôme, on va dire,
mais en binôme, ou en tout cas, oh, de pas être le lead, de pas avoir le lead, et de le faire de manière aussi classe, je trouve ça très honorable.
Mais j'espère que ça va pas durer. Hein.
Cécile Duflo, puisque vous l'évoquez, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir l'entendre aussi différemment. D'ailleurs, je l'ai trouvé héroïque pendant cette émission, Cécile Duflo, et je trouve que l'émission aussi est devenue un rendez-vous parce que c'est un moment où on peut donner la parole un peu plus librement, un peu plus longuement. Et donc, ces extraits qui sont souvent repris de Quelle époque, c'est aussi, je trouve, un stigmate pour dire on a peut-être besoin d'un espace de parole un petit peu privilégié. Et je trouve que l'émission l'apporte. Et Cécile Duflo, je l'ai redécouverte un peu là.
Et ça me fait plaisir ce que vous dites parce que, au fond, je pense que c'est... Comment vous dire ? Déjà, à mon niveau, moi, je me suis jamais sentie aussi libre, aussi relâchée. Mmh. Et je trouve que c'est un endroit, et ça a toujours été le samedi soir, Ardisson, Souriquet, c'est un lieu un peu où on se lâche. Ouais. On dit des trucs qu'on ne dirait pas à un autre horaire, sur une autre...
Ce que faisait Bouvard aussi, il y a des siècles,
le samedi soir. J'ai fait l'année avant Ardisson, moi. Avec du fer dans les épinards.
C'est vrai que c'est bien sûr de Chavannes.
Juste l'année d'avant. Tu as
raison. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que c'est un moment où tu peux te laisser aller. Ouais, c'est un peu sulfureux, c'est un peu transgressif et c'est un plaisir. Ouais. Surtout sur le service public où c'est parfois un peu lisse.
Quelle époque, le samedi soir, en deuxième partie de soirée. Tout de suite, voici Lisa Delmoitié.
Eh oui. Bon. Déjà, n'oubliez pas ce qu'on vient de dire.
Attention, Lisa, il va rire.
Faut rigoler, ouais, c'est ça. Soyez polis, rigolez. Les amis, je parle de savoir si c'est sincère.
Amis, je ne pourrais pas le faire pas sincèrement.
Vous le savez peut-être, la culture souffre. Et ce, depuis bien avant que notre émission existe. Donc, je me lance dans une carrière artistique. Non, la fréquentation des musées, par exemple, baisse. Et pour pallier à cela, celui consacré au peintre Rembrandt à Amsterdam... Pour pallier cela, celui consacré au peintre Rembrandt à Amsterdam propose, à partir de juin, de terminer la visite en se faisant tatouer un des tableaux du peintre néerlandais. Et les amis, vous le savez peut-être aussi, la fréquentation de mon spectacle... Alors, souffre, mais pas le mot. Mais enfin, stand-up, c'est de la dentelle. Hein, c'est un spectateur à la fois. La fréquentation fluctue. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors voilà, je propose à partir de juin aux auditeurs qui viendront voir mon spectacle de se faire tatouer une de mes plus célèbres blagues.
D'accord.
Voilà, au choix, faites-vous tatouer par exemple « Mon corps vieillit, j'espère que t'aimes la viande maturée ». Un classique qui ira très bien sous votre poitrine. Ou encore, en cette journée essentielle de lutte contre l'homophobie et la transphobie, pourquoi pas se faire tatouer un petit arc-en-ciel sur l'omoplate accompagné de « Quand il pleut, Dieu dessine les arcs-en-ciel dans le ciel. Lol, même le ciel, il est gay ». Voilà, un bon classique.
C'est un peu long, non ?
C'est un peu long, ouais. Bon, j'ai une grosse omoplate. Enfin, c'est ce qu'on lit, grosse omoplate. Non, on va arrêter là. Enfin, on a aussi le préféré de Daniel, un classique. Ouais. Un tatouage idéal pour le bas du dos, je cite, on avait dit pas dans le cul, reste à l'avant, capitaine.
Ah oui, celle-là,
Daniel, un peu nautique. C'est pas faux d'avoir prévenu au début de la chronique, la culture souffre. Moi, j'aime beaucoup cette idée de tatouage représentant des tableaux classiques. J'ai vraiment envie de m'en faire un aussi. Enfin, un de plus, parce que j'ai déjà la nuit étoilée de Van Gogh sur le corps. Figurez-vous. Alors, c'est pas réalisé à la machine ni à la main. Si les étoiles sont réalisées avec toute l'acné que j'ai sur le cul. Voilà. Si quelqu'un veut dormir sous les étoiles. Mais là, moi, j'ai eu 30 ans et j'ai très envie de symboliser le temps qui passe. Donc, je pense à me faire tatouer une horloge sur les nichons. Voilà, comme ça, quand j'aurai des gosses, mes seins vont fondre. L'horloge avec, et bim, c'est plus des loges qui se cassent la gueule, mon gars, c'est du Dali. Voilà, une blague vulgaire, mais cultivée.
Temps, ouais.
C'est beauf, mais c'est France Inter. C'est beauf Inter. Je trouve ça cool de se faire tatouer des œuvres classiques parce que c'est intemporel. Hein. A priori, si j'aime Rembrandt aujourd'hui, ben, je l'aimerai toujours dans 10 ans. C'est moins garanti si je me fais tatouer le nom de mon amoureux du moment. Hein. A priori, en 2033, j'aimerais toujours le clair-obscur, mais j'espère vraiment que je serai sortie de ma phase Quentin, ancien comptable qui a tout quitté pour devenir DJ. C'est quand même dangereux de se faire tatouer un prénom. Hein. Je pense que la meilleure stratégie, c'est celle de Steve-O, personnalité dont les quelques auditeurs de France Inter nostalgiques de Jackass sur MTV se souviendront. Le gars a tatoué Your Name, donc ton nom, sur son cul. Comme ça, dès qu'il drague une meuf, il peut dire hey, « Hé Leïla, devine quoi ?» J'ai ton nom tatoué sur mon cul. C'est un génie, le gars. Putain, mais c'est mon fardeau, mais j'adore les beaufs. Bon, je vous raconte pas mes dettes. Bref, même l'œuvre d'un artiste, c'est quand même risqué, hein, comme tatouage, parce qu'avec le temps, il peut s'avérer que l'artiste est problématique.
C'est ça.
Hein, si t'as Guernica tatoué sur le cul,
Bon, déjà, aucun respect pour l'Espagne. mais surtout, c'est tendu avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la façon dont Picasso traitait les femmes. Ouais. Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste? Je ne sais pas. Mais pour séparer l'œuvre de ton cul, il va falloir y aller au laser. voilà. Donc, je vais peut-être me faire tatouer un tableau moins risqué, du coup. Peut-être blanc sur blanc de Malevich. Hein, voilà. Moi, je suis blanche comme un cul, donc ce sera discret. Je peux pas faire ça avec du noir, évidemment. Hein, tu peux pas te tatouer le visage en noir puis dire, alors, c'est pas du blackface, c'est du soulage.
C'est joli.
Après, même si tu te fais pas tatouer une œuvre, le tatouage en soi est considéré comme de l'art aujourd'hui. Il y a une compagnie, Save My Ink Forever, qui récupère la peau des défunts et l'encadre comme des tableaux.
Wow.
Ce qui a du sens pour certains tatouages vraiment uniques. Mais enfin, je plains quand même les petits-enfants de 80% des gens de ma génération qui auront encadré au-dessus de leur cheminée un vieux bout de peau avec le symbole affini et You Only Live Once en lettres gothiques. On s'en passera. C'est fou les tatouages. Avant, c'était considéré comme un truc de biker ou de tollard et maintenant, c'est dans les musées. Je me demande si un jour le bodybuilding sera aussi considéré comme de l'art. Parce que si le tatouage, c'est de la peinture, le bodybuilding, c'est de la sculpture. Hein, c'est pour ça que tous les bébés ressemblent à des gros tas de terre glaise. Hein, c'est juste la nature qui dit bon, ben allez, il n'y a plus qu'à sculpter. Moi, je crois que les culturistes, c'est un peu des artistes. Hein. Schwarzenegger, c'est le Rodin autrichien. Quand Michel-Ange de Florence sculpte le David, c'est du génie. Mais quand Michael du Basic Fit sculpte ses triceps, c'est de la vanité. Ben non, je suis désolée. Si on découpe des tatouages pour les encadrer, je propose qu'on empaille des bodybuilders pour les mettre dans les musées. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à un bodybuilder, mais tu as déjà l'impression qu'ils sont remplis que de paille. Il n'y a rien d'autre dedans. C'est gratuit, je suis jalouse. Peut-être même qu'un jour, les chirurgiens esthétiques seront considérés comme des artistes qui sculptent nos corps comme du marbre. Hein. Kim Kardashian, c'est plus une femme, c'est une sculpture. Regardez son compte Insta, c'est plus une meuf, c'est un vase. Je suis désolée, c'est pas un cul, ça c'est une amphore. Hein. Le corps, je pense, est notre outil d'expression ultime. D'ailleurs, une autre stratégie originale pour attirer les visiteurs, c'est celle du musée d'art contemporain de Lyon, qui a proposé pour visiter une expo consacrée au corps dans l'art, justement, de venir à poil. Donc tu peux aller visiter l'expo à poil. Alors voilà, je propose aux auditeurs qui viendront voir mon spectacle le 3 juin au Théâtre Métropole de venir... Ouais, non, on va éviter les procès. Venez habiller, mais venez quand même.
Merci. Merci, Isabelle Moutier. D'autres événements culturels, Leïla, à part quelle époque à la télé?
Oui, si je veux voir Bob Dylan sur scène, je vais où cet été?
En festival.
Mm-hmm. Où ça?
C'est un quiz?
Dramaturge.
Ouais, c'est une interro.
En Corse?
Non, à l'étranger. Une institution.
Coachella.
Oui.
Non, c'est déjà passé, Coachella.
Glastonbury.
Ah, non, bah.
L'été, il y a quoi en grand festival?
Francophonie.
Mais l'étranger, c'est pas forcément très loin.
Burning Man, c'est pas un festival.
Non, c'est aux États-Unis.
On va pas si loin, on peut aller dans des pays.
En Allemagne, donc.
En Belgique?
Non.
En Belgique, en Hollande.
Des grands noms du festival, les gars.
On est nuls.
Bah, en Belgique, ils ont eu un.
Montreux Jazz.
Ah, Montreux.
Bien sûr. On va avoir des grosses affiches. C'est souvent le Montreux, c'est le Paléo de Nyon, c'est tout ça. C'est des grands, grands rendez-vous, des temps forts.
J'ai visité le chalet de l'ancien propriétaire.
Bah oui, de Claude Naps. Moi aussi.
Ouf.
Moi aussi, c'est merveilleux. Merveilleux. Avec toute cette collection de petits trains.
Incroyable. Fou. Non, bah, je pense surtout moi au truc d'artiste et robe de chambre de Freddie Mercury, le piano, la trompette, la guitare.
Le piano cocktail, une sorte d'imitation, tentative de Boris Vian. En tout cas, c'est la 57e édition du festival. C'est vraiment un lieu merveilleux du 30 juin au 15 juillet sur les bords du lac Léman en Suisse. Et en effet, il y aura Bob Dylan, Gilberto Gil, Sam Smith, en gros. Et en effet, toutes les grandes légendes de la musique sont
Gilberto
passées là-bas.
Géant.
Absolument. Pour vous demander, tous les deux, le dernier concert auquel vous avez assisté, est-ce que votre vie vous permet d'être des grands consommateurs de culture ou des grands fans, je sais pas, d'un artiste qui vous fait vous déplacer?
Moi, pas du tout.
Ouais, le concert, c'est pas votre endroit.
C'est pas ça, c'est que je n'ai pas du tout le temps et c'est ma grande souffrance. Je pense que le dernier concert. Je vais vous dire. Je pense que ça remonte à.
Charles Aznavour.
Non, mais à Johnny avec Eddie Mitchell et.
Les Canailles.
C'était ça, son dernier Bercy. Je crois que ça remonte à ça. Donc tu vois, je n'ai absolument pas le temps avec la matinale et le.
Et ouais.
Christophe non plus.
Je crois que c'est pire, moi, parce que je suis allé voir.
Michael Jackson.
Non. J'étais allé voir Springsteen. Et je suis
lundi dernier, on y était avec Leïla.
Ah oui, vous avez été.
Ouais, bien sûr. Bien.
Bah voilà, vous avez de la chance.
Qu'est-ce qui
mais alors
qu'est-ce...
Et samedi, puisque comme il n'y avait pas qu'à l'époque, samedi et lundi, les deux soirs.
T'as loupé l'Eurovision.
C'est l'inverse, c'est l'Eurovision qui s'est loupée.
Mais alors finalement, au-delà de ce qui est imposé en lecture, en spectacle, pour les personnes que vous recevez, il est où votre espace de culture perso?
Ben moi, c'est ce qui me manque le plus. Voilà, c'est ce qui me manque le plus.
Moi, j'en ai jamais.
Il est l'été.
Non, mais c'est vrai.
Tu veux répondre?
Vous avez dit quoi?
Non, j'en ai dit, moi, j'en ai jamais eu. Voilà, comme
c'est vendu. Autre question?
Non, pardon, pardon.
Léa
n'a pas répondu.
Non, je veux juste dire...
Il me manque cet espace.
Je pense que l'espace culturel doit être un espace gratuit. C'est-à-dire un moment où c'est une gratuité. Or, moi... Quand je travaille, quand je reçois les gens, je lis le livre, etc., pour mon boulot.
Oui.
Et la dernière espace gratuit que j'ai eu, c'est un ami à moi qui m'a offert Pessoa, que je connaissais pas, le livre de l'intranquillité, et j'essaie de le picorer tous les soirs.
Il va vous durer un petit moment,
Il me dure depuis janvier. Et j'essaie d'en picorer un fragment tous les soirs. Ouais. C'est très déprimant, mais c'est une langue sublimissime. Ça, c'est mon espace gratuit.
Alors, déprimant, vous avez raison, c'est Damon.
Ah oui.
Je l'adore, lui. Tous les matins, en passage d'antenne. Pour le 7-9, qui se fout de notre gueule avec Demorand.
Avec amour.
Tous les matins.
Et aujourd'hui, mon héroïne du jour, les amis, Royette, bien sûr, notre première ministre, la totale déglingo, Elisabeth Borne. En effet, en ce moment, Zaza Borne fête son premier anniversaire en tant que chef du gouvernement. C'était pas gagné. Mais j'ai peur qu'avec un profil aussi foufou que celui d'Elisabeth Borne, la gaudriole l'emporte et que mon papier parte en cacahuète. Du coup, non, elle n'est pas mon héroïne du jour. Non, car en plus... Bien sûr, mais bordel, où avais-je la tête, nom de Dieu. Mon héroïne, c'est Léa Salamé, la Wonder Woman du service public. Je vous assure, quand elle déboule au petit matin à France Inter, le temps s'arrête. Démarche chaloupée, mais décidée, en stiletto et bigoudi. Sur son passage, les femmes pleurent de jalousie, les hommes grognent de joie, parfois le contraire. En tout cas, personne n'est insensible. Même le ficus du couloir, il la regarde. Mais là... C'est pas seulement cette créature alpha, symbole de chaos érotique, Léa. C'est une femme d'une hyperactivité stratosphérique. Pendant que la main droite écrit des questions de son interview de 7h50 du pied gauche, elle prend des notes pour le troisième volume de Femme puissante. Avec la main gauche, elle fait les mots fléchés de TéléZ. Avec son pied droit, elle prépare un gâteau pour accueillir les invités de 8h20. Alors, bien entendu, cette énergie engendre des dégâts collatéraux. Dans son entourage, ça trinque. Et ces dommages collatéraux s'appellent Nicolas Demorand et Christophe de Chavannes. Nico et Chris. Alors, Chris, ça va encore un peu, hein, en semaine pour récupérer de quelle époque il dort 20 heures par jour. Mais Nico, mon Nico, il est tellement au bout du rouleau de Maroc la semaine dernière en éternuant, il s'est pété trois côtes.
C'est vrai
en plus, hein. Léa, en femme incroyable, elle défie...
Non, pas en éternuant, mais il est cassé.
Elle défie les lois de la résistance. Et ça... Ça fait des jaloux. Hier à Cannes, on la prend photo, une clope à la main.
Ah ouais.
Ah oui, oh là là.
Et c'est parti.
Le bad buzz, l'erreur.
Bonsoir. La boulette. Ce soir, dans Enquête exclusive, je vous propose une plongée inédite, incroyable et dangereuse à la fois. Femme ou démon, une plongée dans la vie de Léa Salamé. Léa Salamé, ce qu'on appelle une roquette des médias. Rien ne lui résiste, mais cette femme peut passer du regard doux de la loutre qui pionce à celui de la tigresse en furie. En fouillant dans le passé de Léa Salamé, moi, Bernard de Lévelardière, j'ai fait des découvertes qu'on peut qualifier de terrifiantes. Sur ces images qui datent de ces années d'études, on voit clairement Léa Salamé en compagnie de celui qui semble être un boyfriend. Renseignement pris, il s'agit de Jean-Claude Malboro, fils de qui vous savez. L'addiction est en route, mais le pire est à venir. 2014. Léa intègre France Inter. France Inter surnommée le temple de la défense. Régulièrement, elle croise dans les couloirs Laura Adler et sa perfusion de Valium, Dominique Seux et sa pipe à crack offerte par le MEDEF, ou encore Nagui et son soi-disant jus de concombre détox à la main. Un concombre qui sent quand même très très fort le shit. Avec un tel passé et dans un tel environnement, Léa Salamé peut-elle s'en sortir? Ce serait très étonnant. La semaine prochaine, dans Enquête exclusive, une traversée de l'horreur. Christophe de Chavannes est-il oui ou non cannibale? Si oui, que fait-il en liberté? Sinon, pourquoi a-t-on retrouvé dans sa veste un sandwich avec dedans des morceaux de stagiaire? Vous comprenez, c'est pour ces raisons variées qu'aujourd'hui, Léa Salamé est décidément mon héroïne.
Évidemment, merci.
Merci.
La musique de Papy Boynton, non,
était brûlée. Exactement. Ouais, bonne réponse. Un point pour Nagui.
Merci. Quelle époque, donc, à 23h?
Ouais, 23h. Autour de 23h. 23h15, le samedi.
Entre 23 et 23h40, en gros.
Voilà. Ce samedi, donc, avec évidemment Léa Salamé, Christophe de Chavannes. Je parlais tout à l'heure de vos qualités d'homme de radio. Vous avez un podcast de Chavannes Cherche Copain, que j'écoutais, qui est formidable. Et votre idée de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas pour devenir copain à la fin du podcast.
Voilà. Si possible, ou des gens que je connais, qui me plaisent beaucoup et que j'ai envie de faire parler.
Oui,
ça marche bien.
En copain.
Oui, il y en a certains avec lesquels, franchement, on a gardé contact, comme dirait l'autre, et donc, et j'en reviens vers toi. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est très sympathique, ça se passe à la maison, on boit des coups, du thé, des goûters, voilà, on discute, et j'ai eu des jeunes gens, des jeunes filles, des influenceuses, j'ai eu Camille Etienne, avec qui ça s'est...
Que vous avez ensuite reçu.
super bien passé. Ouais, non, elle est, Camille Etienne n'est pas encore venue.
Non, c'est dans l'émission sur l'écologie, c'est ça, où elle avait été là.
Avec Hugo Clément et en prime sur les arbres.
Et qui à suivre, alors, dans De Chavannes, chers copains ?
Oh, ben ça, c'est une très bonne question.
Nagui, par exemple.
Nagui, bien sûr. Mais Léa, ça fait trois fois que je l'invite, mais vous savez ce que c'est.
Mais non, mais c'est pas ça.
Est-ce que c'est je ne peux pas, j'ai pas le temps.
Est-ce que c'est pas bizarre qu'il m'interviewe, non si
Non, ça serait intéressant, je trouve.
Ah, vous pensez
Ah oui, je trouve.
Ça a très bien marché avec un... Je sais pas si vous connaissez ce type, je crois comment il s'appelle.
Oui,
un type qui est au Parlement...
Ah non, je vais le faire.
Tout de suite, les menaces.
Non, François Hollande, Patrice Carmouze, on a fait un carton.
Bien
parce
sûr.
Que les gens étaient super contents, enfin, des retours.
Vous voyez la preuve qu'il peut recevoir quelqu'un qu'il connaît bien aussi.
Oui, mais c'est vrai, ça me donne envie, alors on va le faire.
Ah, non, mais
De Chavannes cherche copain, le podcast, et quelle époque sur France 2 le samedi soir. Des excuses à
merci
présenter.
Pour le podcast.
Désolé, je suis désolé déjà pour Christophe De Chavannes qui, on l'a compris, se retrouve isolé et mis de côté pendant la préparation des émissions de Quelle Époque. Christophe, c'est clairement de l'humiliation, du racisme anti-légende, m'expliquait même Nagui. Ah, joli monde de la télé. Hein. Désolé pour Nagui maintenant, qui, après avoir rendu hommage à Christophe De Chavannes à longueur d'article, a subi le mépris de ce dernier qui ne veut pas, mais pas du tout de son amitié. Quelle jolie
famille.
Non,
de sa...
Pitié.
De sa pitié.
Désolé enfin pour les producteurs, les monteurs de Quelle Époque, qui se sont fait mais lynchés, dépouillés par Nagui pour la première et qui depuis subissent la pression de Christophe De Chavannes jusqu'à 1h30 du matin.
Non, 6h30.
6h30, c'est encore pire.
Et il a raison.
Monde de merde.
Quelle époque à voir, c'est urgent si vous ne connaissez pas cette émission, mais ça m'étonnerait, c'est un énorme succès, c'est le succès de la rentrée télé depuis l'année dernière et avec une évidence que ça continuera évidemment la saison prochaine.
Rien n'est signé.
C'est pas évident d'installer un rendez-vous en plus.
C'est réussi.
Et donc elle a bien réussi. Et puis elle a en 2-3 émissions, elle a pigé le truc et elle a fait super bien. Au début, c'était rigolo parce que j'ai filé des petits trucs, des petits machins. Et non, c'est super. Il y a encore 2-3 bricoles à régler.
Les ingrédients étaient bons, mais c'est pas forcément le succès d'une bonne sauce que tous les ingrédients chacun.
Et Nagui, est-ce que j'ai le droit de dire Nagui dans la nuit de la première, donc avant les audiences, ça aurait pu se vautrer totalement et il aurait pu être dédié. Il m'a envoyé à 1h du matin.
Non, j'ai regardé, j'ai adoré, je te l'ai dit avant.
Oui, mais en général, parce qu'après les textos, moi je les ai reçus après les audiences. Comme l'émission a marché, tout le monde a écrit, ah, super, machin. Mais personne ne se mouille avant l'audience, parce qu'évidemment, c'est le juge de paix à 9h du matin. Et Nagui, il m'a écrit à 1h. T'as gagné.
Oui, absolument. C'est absolument la formule.
Vous m'avez écrit, t'as gagné.
Très sympa.
Absolument.
Rien à moi.
Non, mais moralité, c'est toujours écrit avant
l'audience. Je ne veux pas de ta pitié, de toute façon.
Ça y est.
Demain, Erwin Gadpet sera notre invité, le grand joueur de volleyball.
Champion olympique.
Exactement. Et qui sera en plus en concert au Café Sauvage. Au Cabaret Sauvage, pardon. Pardon pour ce retard, Dorothée Barba. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Nagui. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui des instruments de musique qui sont souvent fabriqués dans des bois exotiques menacés de disparition. C'était quoi ça, une trompette?
C'est Leïla, faut qu'elle...
Parfait.
Christophe, écoutez, c'est un très bon musicien, il joue extrêmement bien du piano aussi.
Par quel bois plus écolo remplacer ces bois exotiques, c'est notre sujet du jour.
Merci, bonne émission.
Salut, à demain.
Ciao.